à tous d'être présents aujourd'hui. Vous êtes nombreux, on est déjà 39. Donc voilà, il nous manque une petite dizaine de personnes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va démarrer. Vous avez les règles qui vous ont été transmises, les règles de prise de parole. Donc voilà, pour faciliter les échanges, on vous demandera soit de poser vos questions par le chat, soit de lever la main avant de prendre la parole pour pas. Voilà, pour que ça se déroule le mieux possible. Il va y avoir, je vais présenter le programme tout à l'heure, mais voilà, il y aura du temps d'échange. Donc, juste pour me présenter, moi, Mima Galès, je suis chargée de développement à Brudette sur le territoire du 44, de l'Est du 56 et du Sud du 35. Avec moi pour animer cette réunion ce matin, Maïwenn Magnier, donc chargée de développement sur le Finistère. Et puis, on a aussi avec nous Laetitia Cour, adjointe à Saint-Aubin-du-Cormier, qui va vous accueillir au nom de Brudède. Et puis ensuite, on enchaînera sur la présentation du programme. Et je vous ferai un petit point sur les inscrits également. Donc, Laetitia, si tu veux bien présenter.
D'accord. Je vais mettre en partage l'écran. Comme ça, vous allez
L'écran,
pouvoir
oui.
Voilà, il y a un petit déroulé que vous allez pouvoir. Voilà, Laetitia, je te laisse présenter Brudède.
D'accord, donc tout d'abord, merci à tous d'être présents effectivement sur cette thématique qui est ô combien importante sur nos territoires, hein, puisque c'est pour nous un sujet effectivement qui traite vraiment à la fois de la santé, du développement des territoires, de nos restaurations collectives. Je pense que c'est vraiment essentiel et c'est une question que se posent beaucoup, beaucoup de collectivités avec un certain nombre de solutions qui ont été expérimentées sur les différents territoires et qu'on va pouvoir aborder lors de cet échange ce matin. Et donc, merci à l'association Brudette d'organiser ces temps de rencontre et de partage d'expériences puisque c'est vraiment ça. Brudette, c'est un réseau d'échange hein, entre collectivités, à la fois pour les élus, par les élus, hein, qui est porté aussi par les élus, évidemment accompagné par une équipe de professionnels qui est l'équipe de chargée de mission de Brudède. Donc c'est un territoire qui regroupe la Bretagne et la Loire-Atlantique avec à ce jour 185 communes de différentes tailles, des territoires qui vont de 200 à 64 000 habitants et donc 5 EPCI notamment qui ont rejoint le réseau. Maintenant, en 2020, il me semble. Voilà, essentiellement des territoires en zone rurale, mais également ruraine, et puis un certain nombre sur le territoire littoral. Donc, ça représente 550 000 habitants. Il y a quand même une grande majorité des communes qui a moins de 3 000 habitants. Donc, on voit bien l'intérêt aussi de Brudette de pouvoir accompagner des petites collectivités qui n'ont pas forcément une ingénierie en interne. Donc, ça, c'est important aussi de pouvoir avoir du coup cette capacité en fait d'échange. Et puis, surtout, on le verra après, cette ingénierie, ce conseil que peut apporter l'équipe de Brudette. Et on voit même donc. 8% là qui ont un peu plus de 5 000 habitants sur les territoires. Donc il y a la possibilité donc adhérer au réseau Brudède. Concrètement, qu'est-ce que ça représente? Donc c'est l'organisation de visites, de rencontres, de webinaires comme aujourd'hui qui se passe tout au long de l'année. Donc il y a l'organisation de cycles thématiques régionaux qui peuvent se faire sur plein de thèmes différents. Effectivement, ça va de la centralité à la thématique de l'alimentation, la santé, les espaces de gens naturels, la biodiversité, etc. Et puis, il peut y avoir également l'organisation de visites sur le terrain, de rencontres sur le terrain à la demande des adhérents, des collectivités adhérentes. Donc, nous l'avons par exemple organisé sur la thématique du cimetière. Ça avait été une demande, voilà. Donc, il y a des collectivités qui viennent échanger sur la végétalisation du cimetière, et c'est extrêmement concret puisque nous sommes des pieds dans le terrain. Qu'il y a, voilà, il y a une phase effectivement où chacun va pouvoir concrètement voir comment s'est déroulée la démarche. Et puis ensuite, il y a une phase d'analyse et enfin une phase de synthèse, de partage, de valorisation, de diffusion de toutes ces expériences-là. Donc ça, c'est tout le travail de l'équipe projet, de l'équipe professionnelle, donc avec la ré rédaction de fiches projet, des documents thématiques de mutualisation. On le voit sur le document donc, qui est les 17 retours d'expérience pour développer la restauration collective bio et locale. des comptes rendus de visite, des rencontres et effectivement des vidéos que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet. Je vous invite vraiment à aller piocher cette mine de ressources qu'est le site internet de Brudaide. Il y a vraiment sur les fiches notamment des éléments très pratico-pratiques pour les élus et pour les équipes dans les collectivités. Donc, et puis, il y a cette mise en contact possible évidemment avec d'autres élus, avec donc la présentation et les visites de réalisation de thématiques similaires. Et un conseil vraiment sur la démarche projet, la mise en lien avec des partenaires de votre territoire. Et c'est vrai que nous, on l'a aussi sollicité dans notre collectivité par rapport à la relecture du cahier des charges. Je l'évoquerai peut-être par rapport au sujet de la restauration collective. Mais sur des projets d'aménagement également, c'est effectivement une ressource importante que les équipes et puis leur rapport technique dans le domaine des cahiers des charges pour intégrer les enjeux de développement durable, comment les intégrer le mieux possible, très en amont des projets. Voilà pour faire très rapidement le tour des actions de Brudaide. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la richesse de tous les échanges, comme on va le voir ce matin, et qui fait une force sur les territoires et qui fait qu'on ne se sent pas seul. Voilà, sur sa collectivité, et ça crée vraiment une dynamique, en fait, et c'est une vraie ressource pour les élus.
Merci, Laetitia. Donc, bonjour à ceux qui se seraient connectés dans les 2-3 dernières minutes. Bienvenue à vous. J'ai juste une petite question qui se pose dans le chat, donc autant y répondre tout de suite, et qui est de savoir est-ce qu'on pourra recevoir la présentation. Donc les éléments de présentation de la matinée seront effectivement envoyés, ou en tout cas feront lieu d'un petit compte-rendu, donc qui vous sera envoyé. J'ai aussi une autre question éventuellement, voir si les uns ou les autres d'entre vous ont des oppositions au fait que la rencontre de ce matin soit enregistrée. Il est possible qu'on puisse la mettre en rediffusion partielle, soit sur les témoignages ou intégrale. On verra ce qu'on en fait. Donc, est-ce que il y a parmi vous des gens à qui ça pose souci, ou est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on enregistre cette rencontre? Voilà, je vous invite à vous manifester éventuellement par le chat, et le cas échéant, si vous ne souhaitez pas être présent, bah, coupez votre vidéo. Mais bon, voilà. Donc, autant on vous invite à couper les micros, autant on a envie de vous voir un peu, donc on vous invite plutôt à laisser votre vidéo si vous avez la possibilité. Ok, merci à tous. Alors, avant de vous présenter le programme, je voulais vous faire un petit retour sur les inscrits, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est nombreux, hein, 43 pour l'instant connectés. Vous étiez 51 inscrits, donc 45 élus. 32 femmes et 19 hommes, quand même, petite statistique de parité, donc 63% de femmes sur ce sujet de la restauration collective bio et locale. Donc voilà, donc sur les 45 élus, on avait voilà, la grosse majorité de collectivités adhérentes, hein, 34 élus des collectivités adhérentes, 40 collectivités représentées dans les inscriptions sur les 5 départements. Hein, donc voilà, c'est l'avantage des webinaires, c'est que pour le coup, ils peuvent rassembler des élus vraiment de tout le territoire d'Action de Brudaide, et ça vraiment c'est chouette. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur les inscrits, vous aurez l'occasion éventuellement de vous présenter lors de la prise de parole. Je vais vous représenter le déroulé. Maïwenn, si tu peux nous mettre éventuellement le programme de la matinée. Voilà, donc on va commencer par deux témoignages de collectivités adhérentes. Donc on va commencer par la commune de Bouvron, où Emmanuel Van Brakel, maire, et Clotilde Chamas, adjointe, vont nous présenter la restauration collective à Bouvron, donc qui se passe via une DSP confiée à une association. Donc ils nous présenteront ça. Suite à ça, il y aura un petit temps de questions-réponses sur ce témoignage-là, si vous avez des besoins de précision. Ensuite, on enchaînera sur le témoignage de la commune de Rosnoën, où Rolande Bizek, adjointe, vous présentera la démarche de passage en régie qui a eu lieu il y a 2-3 ans. Voilà, pareil, un petit temps de questions-réponses à la suite de ça. Ensuite, Maïwenn nous présentera l'analyse qui a été présentée dans le document de mutualisation, du coup, qu'on vous a mis en lien 17 retours d'expérience pour développer une restauration bio et locale, dans lequel on a extrait 7 facteurs de réussite pour développer une restauration collective bio et locale. Voilà, donc elle vous présentera ça. Et ensuite, on aura un échange du coup libre entre participants, où on vous invitera à poser vos questions, et on invitera également les, les élus présents dans la salle à apporter leurs éléments de réponse, hein, puisqu'on est vraiment là pour échanger entre élus, pas forcément vous apporter des recettes toutes faites, mais surtout profiter du retour d'expérience de chacun. Voilà, eh bien, si vous en êtes d'accord et si vous êtes prêts de votre côté sur Bouvron, eh ben, on va vous passer la main. Je ne sais pas si c'est Clotilde ou Emmanuel qui enchaînait.
Ça va être Clotilde, mais je veux juste faire un mot d'introduction. Donc, ouais. C'est vrai que nous avons la chance sur Bouvron d'avoir une restauration collective qui marche bien grâce à plusieurs facteurs clés de réussite sur notre territoire et la combinaison aussi d'acteurs qui étaient présents et qui ont eu des volontés justement de travailler là-dessus pour proposer une restauration locale, bio, avec une très bonne gestion. Donc, et on a la chance aussi d'avoir de beaux équipements sur notre commune qui font régulièrement l'objet de visites. Donc, on a évidemment beaucoup de chance. Maintenant, il y a quand même quelques éléments donc, qui sont pertinents à présenter pour justement inciter d'autres personnes à s'inspirer de ces actions pour proposer une restauration locale et bio dans la mesure du possible. Donc, je vais laisser la main à Clotilde Chamas, donc, qui est adjointe aux affaires scolaires, vous présenter rapidement notre fonctionnement.
Alors, juste petite info, comme c'est moi qui déroule le diaporama, merci de m'aider à faire défiler les diapos en lien avec votre présentation.
Oui, bah, bonjour tout le monde. Donc, Clotilde Chamas, je suis donc l'adjointe aux affaires scolaires de la commune de Bouvron. Donc, Bouvron, c'est une petite commune, effectivement, de 3200 habitants environ, qui est située effectivement dans le département de la Loire-Atlantique. Donc, vous voyez effectivement là sur la carte notre situation géographique. Et chez nous, la restauration, elle est organisée exclusivement à destination des élèves de l'école publique. On a deux écoles sur la commune, une école privée et une école publique. La restauration scolaire, là, telle qu'on va vous la présenter, eh bien, elle est destinée effectivement aux enfants de l'école publique. Donc, 11 classes et 270 élèves et environ 200 repas servis par jour sur deux services. Un service plutôt maternel, CP-CE1 et puis un service pour les plus grands. Donc au niveau de l'organisation, donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, la restauration scolaire, elle est organisée au niveau d'une DSP, hein, une délégation de service public qui est confiée à une association, l'association Les Petits Palais, qui a été créée en 2013. Au niveau de l'organisation de l'association, donc les statuts prévoient du coup un bureau, hein, qui est composé exclusivement de parents d'élèves, hein, donc de l'école publique, un conseil d'administration, auxquels vont participer eh bien, plusieurs élus de la commune, l'association du coup Les Petits Palais, le conseil des maîtres, hein, il y a des représentants auprès des professeurs des écoles, et l'Amicale Laïque, qui est également une association présente sur l'école. Il y aura effectivement pour support au niveau de l'organisation, hein, bien évidemment une équipe de salariés pour la confection des repas, les relations avec les fournisseurs, la gestion de la salle et la facturation. Sur le fonctionnement, eh bien, on va dire que les décisions sont prises en bureau ou en conseil d'administration, hein, sur les orientations et la gestion administrative notamment. L'association se fait aider par un expert comptable pour tout ce qui concerne les bulletins de salaire et les comptes annuels. Et puis, eh bien, nous, en tant que commune, en tant que mairie, on va intervenir essentiellement sur l'entretien du bâtiment. Alors, au niveau du personnel, les repas, ils sont confectionnés à 100% sur place par le cuisinier, donc Joël. L'association, elle tourne essentiellement à l'aide d'un certain nombre de parents bénévoles, hein, qui se renouvellent chaque année. Et puis, nous avons donc au sein de l'association 6 salariés. Je vous ai présenté là effectivement en équivalent temps plein. Donc, un cuisinier qui est chargé effectivement d'élaborer les menus, de faire les achats et de confectionner effectivement les repas. Et donc, c'est lui qui va notamment faire le lien aussi avec les fournisseurs. On a un autre salarié, hein, qui est réparti sur son temps entre de la cuisine et de la facturation. Un salarié qui gère essentiellement la salle, hein, au moment effectivement des repas. Et puis, 3 personnes supplémentaires, hein, qui vont assurer le service et le nettoyage, sur vraiment le temps méridien. Alors, le restaurant scolaire, il a été dès l'origine, par le biais de l'association, engagé dans une démarche de bien manger au restaurant scolaire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, les commandes et les liens avec les fournisseurs sont gérés directement par le cuisinier. Et tout est organisé autour d'un certain nombre de valeurs, valeurs éducatives à travers l'épanouissement des enfants, la préservation de la santé, la protection de l'environnement, la solidarité, l'équité, la mixité sociale et le développement local participatif. Donc, depuis 2007, on a une cuisine qui est 100% bio et locale. En 2008, ça s'est concrétisé par la signature de la charte « Bien manger au restaurant scolaire ». Et cette charte a fait l'objet d'un renouvellement de notre engagement par le biais d'une nouvelle signature en présence de François de Rugy en 2018. Alors, au niveau du coût des repas, le prix de revient, donc là, je vous l'ai affiché à 5,70 €. En réalité, je viens de vérifier, c'est 5,71 €. On a une petite augmentation au mois de septembre. Voilà, vous avez le découpage effectivement qui est fait au niveau de à la fois du prix de revient et du prix du repas. Vous voyez effectivement qu'au niveau de la participation, hein, notamment pour les familles, donc on a effectivement une participation famille qui est en moyenne de 60%, 61%, une participation de la mairie et puis une subvention liée effectivement au bien manger. Alors, la commune porte essentiellement les investissements au niveau du restaurant scolaire sur les bâtiments, hein, puisqu'il faut effectivement faire, on va dire, l'entretien courant de celui-ci. Les montants, ils varient, on va dire, selon les années. Et en 2015, on a eu des investissements plus conséquents par rapport effectivement à la démarche de conception intégrée pour l'ensemble du pôle enfance et la rénovation de la cuisine, notamment, qui a coûté 90 000 € hors taxes. Donc là, vous avez représenté le plan du restaurant scolaire, donc avec l'espace salle à manger que vous voyez effectivement à droite, les sanitaires qui sont directement accessibles par les enfants depuis la salle à manger, et puis toute la partie à gauche qui concerne, on va dire, les cuisines, les bureaux, le stockage, ce genre de choses. Alors, au niveau des clés de la réussite, donc on a identifié effectivement, aujourd'hui, nous, on est effectivement très contents, hein, de ce restaurant scolaire. Hein, il est effectivement très satisfaisant d'un point de vue organisation, mais aussi d'un point de vue usager. Hein, il y a effectivement beaucoup de parents aujourd'hui qui sont très contents de ce système de restauration collective. Alors, ça a pu se faire rétrospectivement parce que dès le départ, effectivement, il y avait une organisation qui était stable et des parties prenantes qui étaient directement impliquées, hein, que ce soit les parents, le personnel, également la commune. Et on avait effectivement déjà la chance d'avoir un cuisinier qui cuisinait déjà des produits frais. Ensuite, effectivement, c'est une démarche qui a pris du temps, 4 ans au total, pour introduire effectivement les ingrédients un à un, créer notamment un réseau de fournisseurs et puis travailler la communication avec les parents. Au niveau effectivement de l'hygiène, eh bien, c'est vrai qu'il a fallu au départ accompagner les producteurs pour qu'ils puissent répondre aux exigences de la restauration collective, notamment par rapport à tout ce qui est effectivement service vétérinaire, et puis rassurer en communiquant sur l'utilisation des protocoles pour l'utilisation des produits frais. Donc après 12 ans, on peut faire effectivement un bilan très positif. Il y a une véritable implication des enfants et des parents effectivement dans et par le biais de cette association. Donc, il faut savoir effectivement que l'organisation du restaurant, elle a été aussi pensée pour l'autonomie des enfants, puisqu'aujourd'hui, les enfants se servent à table. Hein, le service, effectivement, est fait directement par les enfants qui se servent à l'assiette. Et lorsqu'ils se servent, eh bien, ils s'engagent à manger ce qu'ils auront consommé, effectivement, on va dire la quantité qu'ils se seront servis, ce qui a un lien directement, effectivement, avec le gaspillage. Puisque du coup, effectivement, comme effectivement chaque enfant se sera engagé à manger ce qui s'est servi, bien effectivement, on a moins de reste effectivement dans les assiettes. Et puis, on a une baisse des déchets, puisque aujourd'hui, on a des déchets retour de salle qui sont d'environ 20 grammes par enfant, contre une moyenne nationale au primaire de 70 grammes. Et les enfants sont amenés aussi à trier leurs déchets à la fin du repas, donc entre les aliments qui sont compostables, non compostables. Le cuisinier pratique et a effectivement un équipement qui permet la cuisson basse température des viandes, ce qui permet de préserver la saveur et la masse. On a également effectivement une démarche de diversification des protéines, puisque très rapidement, on a intégré des repas à base de protéines végétales. Et puis enfin, on affirme effectivement une démarche qui est bio et locale. Alors, sur les points de vigilance qu'on a pu effectivement identifier, alors c'est tout d'abord les locaux. Nos locaux, effectivement, le bâtiment du restaurant scolaire est construit a priori sur un terrain qui est assez humide, ce qui fait qu'on a effectivement besoin de faire de l'entretien au niveau du bâtiment, on va dire assez couramment, en lien effectivement avec ces remontées d'humidité. Un autre point de vigilance pour cette année, en tout cas, c'est effectivement la situation budgétaire, puisque le contexte sanitaire actuel a obligé à mettre en place un certain nombre de protocoles sanitaires et puis a entraîné une certaine perte d'activité. À la fois une perte d'activité qui a été liée à la fermeture du restaurant scolaire pendant le premier confinement, puisqu'il y a eu effectivement toute une période où les écoles étaient fermées, et puis une perte d'activité qui est liée aux activités annexes du restaurant scolaire, puisque cette année, pas d'organisation de fête de l'école. Or, traditionnellement, c'est le restaurant scolaire, en tout cas l'association Les Petits Palais, qui gère le repas des parents pour la fête de l'école. On a aussi dû arrêter les repas ouverts aux parents, puisque traditionnellement, une fois par mois, les parents peuvent sur inscription venir prendre un repas au restaurant scolaire. Et effectivement, ça a dû être arrêté à cause du protocole sanitaire. Donc, pour conclure, je vous ai mis effectivement quelques photos. Photos des cuisines, des locaux, et puis des photos qui illustrent aussi la participation des enfants. Les enfants, effectivement, sont aujourd'hui largement impliqués dans la restauration. Alors, cette année, c'est un petit peu effectivement plus compliqué parce qu'effectivement, il y a le protocole sanitaire. Mais les années précédentes, régulièrement, les enfants participent à l'élaboration des repas qui vont être servis à tous le midi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Alors, je crois qu'on a déjà quelques questions dans le chat. Notamment, déjà, il y avait une première question au niveau des coûts, qui peut-être, je pense, effectivement, ça serait intéressant. Je ne sais pas si, Maïwenn, tu pourrais remettre la diapo qui parle des coûts. Alors, je crois que Laetitia avait une question sur, notamment, savoir si c'était des coûts TTC, c'est ça? C'est ça ta question, Laetitia?
Oui, c'est ça, c'était hors taxe ou TTC, oui, bien sûr.
Moi, c'est les coûts TTC. Hein. Je sais pas, Clotilde.
Non, oui, je confirme, c'est bien les coûts TTC. Hein, quand on parle de prix de revient ou prix du repas, c'est bien du TTC. La facturation, là, à 5,71, en fait, hein, en réalité, effectivement, c'est directement ce qui apparaît sur la facture des parents d'élèves. Ouais.
Donc, vous facturez au réel, en fait, c'est ça? Enfin, oui. Vous facturez toute la partie coût du repas aux parents. Et est-ce que ça inclut la partie, service, etc.?
Oui, parce que dans le prix, effectivement, de revient, là, on voit bien la part des denrées, la part des salaires, la part d'entretien.
Et puis, ah oui, pardon, je ne vois pas très bien. Pardon, c'était écrit en petit sur notre écran. Pardon, je vais l'agrandir un peu. OK. Oui, ça me paraissait du coup pas excessif du tout, quoi.
Non, c'est pour ça que faire du bio et du local, c'est pas si cher que ça. Nous, la participation mairie, hein, il y a un pourcentage de fixe plus 20 centimes de mémoire sur le fait que ce soit du bio. On vient subventionner en complément. Mais c'est vrai que le prix de revient in fine est pas excessif du tout. Après, évidemment, c'est modulé pour les familles suivant un quotient familial, hein. Avec un lissage de manière à éviter des effets de seuil. Donc, pour chaque parent, le tarif est complètement différent.
Voilà, c'est le schéma d'en dessous. Pardon. OK.
Oui. Mais effectivement, la facturation, moi, personnellement, si je peux parler de mon expérience personnelle, je suis arrivée sur la commune il y a 4 ans maintenant. J'avais l'expérience d'une précédente école qui n'avait pas de cuisine sur place. Hein, donc, Pour le coup, c'était des repas préparés qui étaient commandés. Et concrètement, j'ai été très surprise de recevoir ma première facture de restaurant scolaire parce que je payais en réalité moins cher. En étant à Bouvron avec une avec des produits bio, locaux, etc., que ce que je payais avant dans ma précédente commune.
Mmh. Ok. J'ai une question sur la subvention bien manger, parce qu'on ne voit pas les codes couleurs. Nous, là, c'est la part de 4%, c'est ça, hein ?
Oui.
Okay.
Merci. Ok. Je pense que sur les coûts, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur les coûts. Sinon, il y avait d'autres questions qui concernaient le... Alors, le service, toujours Laetitia qui avait une question sur le service à table, est-ce que ça concerne en autonomie, est-ce que ça concerne également les plus jeunes ?
Alors là, effectivement, au niveau du service à table, ce qui est fait, on va dire, de manière classique, parce que du coup, je vais dire après ce qui se passe pour le protocole sanitaire, mais là, de manière classique, effectivement, ce qui est prévu, c'est un plat qui est amené sur chaque table et les enfants qui se servent à l'assiette, y compris les maternelles, donc dès les petites sections. Alors, il peut arriver effectivement qu'il y ait un petit peu d'aide au départ, mais très rapidement, les enfants, effectivement, manient très bien à la fois la cuillère, les pichets sont jamais remplis complètement pour éviter effectivement que ça déborde, que le pichet soit trop lourd. Donc, c'est des choses qui sont facilement faisables par les plus petits. Et puis, pour les plus grands, ça ne pose pas de difficultés. Après, là, effectivement, il a fallu trouver une nouvelle organisation pour le protocole sanitaire, puisque bon, il fallait éviter que les enfants se passent les cuillères des plats, on va dire, pendant la crise sanitaire. Donc, la solution intermédiaire qui a été trouvée, c'est que pour les maternelles, du coup, eh bien, c'est l'adulte qui fait le service. Et puis, pour les primaires, eh bien, il y a un enfant par jour qui est responsable du service. C'est-à-dire qu'ils sont quatre par table et chaque jour, il y a un enfant différent qui sert ses camarades.
Ok, on avait également une question concernant l'implication des parents, leur tâche, leur rôle, si les parents sont impliqués dans l'organisation de la cantine, comme c'est géré par l'association.
Alors, effectivement, sur le temps méridien, c'est essentiellement les salariés hein, qui vont assurer la logistique de distribuer les repas et d'assurer effectivement le service aux enfants. Après, les parents bénévoles, effectivement, ce sont eux qui vont prendre, on va dire, les décisions en amont, on va dire les décisions d'engagement, la logistique, la gestion du personnel, etc., etc. Donc là, c'est vraiment fait au niveau de parents bénévoles impliqués au niveau du bureau, avec un renouvellement assez régulier qui est lié au fait que pour effectivement faire partie de ce bureau, il faut être parent d'élève à l'école.
Donc, c'est vraiment une des particularités locales, je crois, parce que c'est la gestion du restaurant est vraiment gérée de très longue date, peut-être de tout temps. Je ne sais pas si c'est de tout temps, mais par cette association de parents.
En tout cas, depuis sa création, oui. Ouais. Alors après, je ne sais pas, Emmanuel, toi, si tu as des éléments sur avant, comment ça fonctionnait.
De mémoire, il y avait déjà quand même une gestion avec les parents, parce que ça remonte à 2005, hein, le démarrage sur ce travail sur la restauration scolaire. Je n'ai pas tous les éléments d'historique, mais pour autant, je sais que oui, ça, c'est de longue date que les acteurs locaux se sont investis sur le sujet. Les petits palais en eux-mêmes, c'est 2003 la création.
D'accord. On avait une question également sur le fait que, est-ce que l'amortissement du bâtiment est pris en compte ? Là, on a vu qu'il y a eu des travaux, rénovation, extension, est-ce que c'est pris en compte ?
Non. Non.
Et une autre question sur la formation et le profil du cuisinier.
Il est là de longue date, le cuisinier. Hein. Il a dû faire quasiment toute sa carrière sur la commune. Donc, c'est vrai que ça fait partie aussi des clés du succès, c'est qu'on avait quelqu'un de très volontaire pour justement... cuisiner à 100%, avoir le moins possible d'ingrédients déjà préparés à l'avance. Enfin, la chapelure de pain, c'est lui qui l'a fait, par exemple, pour donner quelques exemples concrets. Donc, on a cette chance. Après, je ne sais pas si il a suivi des formations plus ou moins récentes sur le sujet. En tout cas, se posera la question, nous, dans un an, son renouvellement, puisqu'il va partir en retraite. Et il faudra trouver une perle comme lui, ce qui ne sera pas toujours évident. Pour autant, il n'est pas tout seul à travailler, donc il a déjà insufflé évidemment la dynamique auprès de l'autre personne qui cuisine à ses côtés. Et il y a régulièrement aussi des stagiaires qui viennent travailler au restaurant scolaire pour s'inspirer de ce qui est fait.
Puis si je peux compléter, effectivement, il y a cette démarche de cuisiner effectivement véritablement tous les plats qui sont servis, donc qui est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Et puis il y a une démarche de partage aussi avec les enfants, puisqu'effectivement il y avait, alors là avec le protocole sanitaire c'est un peu plus compliqué, mais il y avait beaucoup effectivement d'ateliers qui étaient faits en lien avec Joël et les enfants qui allaient par petits groupes cuisiner avec lui. Donc il y avait aussi cette volonté entre guillemets d'éduquer les plus jeunes aussi au bien manger et à la cuisine.
On a une question sur le repas ouvert aux parents. Enfin voilà, encore une fois hors contexte actuel, mais voilà. Qu'en est-il?
Alors du coup, effectivement, chaque mois, les parents reçoivent le menu et avec le menu, ils ont la date à laquelle effectivement ils peuvent venir déjeuner sur place. Donc en fait, c'est un système de réservation assez simple. Il suffit de passer un petit coup de téléphone au restaurant scolaire en disant bah voilà, je voudrais réserver mon repas pour tel jour. Et donc du coup, c'est dans la limite, je crois, de 6 ou 8 parents, je crois, par jour. En tout cas, c'était pratiqué comme ça avant le protocole sanitaire. Et là, effectivement, on a été obligé de mettre ça entre parenthèses.
Et dans les faits, effectivement, c'est fréquent. Il y a souvent des parents.
Tous les mois, il y avait des parents inscrits. Alors, pas forcément au complet, mais en tout cas, tous les mois, il y avait des parents qui étaient demandeurs pour ça.
Et aussi des agents hein, qui venaient manger, des agents de la commune qui viennent manger au restaurant scolaire, ça arrivait. Pas tant que ça, mais une partie.
Alors, il y a encore deux questions. Et puis, peut-être après, je vous proposerai en fonction des questions de passer au témoignage suivant. Pour que voilà après sur les éléments on puisse échanger plus tard. Alors donc on avait ça y est, les questions pleuvent maintenant que je dis qu'il n'y en a plus que deux. Alors peut-être tant qu'on était sur le cuisinier sur le là il y a une question sur le fait que le cuisinier recherche, est-ce que c'est lui qui recherche les producteurs locaux, enfin en tout cas qui travaille qui à l'approvisionnement?
Oui.
D'accord. Et puis alors peut-être Laetitia, une question sur le fait que ce soit une association, est-ce qu'elle soit elle reçoit des subventions de fonctionnement, est-ce qu'elle est subventionnée cette association et auquel cas est-ce que ça peut avoir un impact sur le coût ou est-ce que l'association
effectivement, je pense qu'elle touche des subventions, notamment des subventions de la caisse d'allocation familiale. Mais je pourrais effectivement me renseigner un petit peu plus. Je ne sais pas exactement toutes les subventions que l'association touche, mais je sais qu'elle en touche, oui. Emmanuel, peut-être que tu...
Oui, je n'ai pas plus d'informations. Effectivement.
Donc, il y a une question sur le lien avec le GAP 44. Bon, ça, c'est toujours sur le côté approvisionnement, lien avec les producteurs locaux. Est-ce que vous savez, justement, est-ce qu'il y a un lien avec ou une plateforme comme Manger Bio, enfin...
On est en lien avec le GAP 44.
Oui. Alors c'est vrai que là on est aussi sur un fonctionnement qui finalement est installé de longue date, donc j'imagine que les liens avec les producteurs.
C'est dans la charte du bien manger, elle est co-signée par le président du GAP 44.
Ok. Je vous propose peut-être de passer au témoignage suivant. Si ça vous va, voilà, on pourra compléter les questions tout à l'heure. Donc, Roland Bizek de Rosnoen, qui va nous présenter la restauration scolaire du coup en régie, hein, qui est passée en régie il y a 2 ans, 3 ans, je crois. Roland, si vous voulez bien du coup prendre la suite.
Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? C'est bon?
Oui,
bon. Alors, Rosnoen est une commune rurale de 951 habitants. Nous sommes situés entre Brest, Quimper et Crozon. Et on bénéficie de producteurs locaux, soit bio, soit en agriculture raisonnée, notamment la viande bovine, porcine et produits laitiers et également les légumes. Les étapes de la création de notre cantine en régie et la progression, je vais un petit peu vous le citer. Courant année 2016, nous étions informés que les parents n'étaient pas du tout satisfaits du prestataire extérieur et nous avons pris la décision d'abandonner ce prestataire face à cette insatisfaction des parents et au gaspillage plus qu'important dans les assiettes. Et on voulait créer cette cantine sur place comme à la maison. Pour ce faire, on a commencé sur les conseils de Brudad des visites sur plusieurs sites, et notamment sur Muel et Langouette, et ensuite sur Roscoff, et ça nous a conforté dans notre décision. On a travaillé avec le personnel encadrant en salle de restauration, avec la volonté d'ouvrir cette cantine à la rentrée de septembre 2017. Donc, nous avions un délai assez court pour cette décision. Durant les 6 premiers mois 2017, notre travail a été de rechercher le cuisinier, parce que nous n'avions pas de cuisinier. Et ensuite de modifier la cuisine en acquérant de nouvelles installations. Ça nous a coûté environ 33 000 euros. Également pour la salle de restauration avec des nouvelles chaises pour les enfants. On a aménagé ensuite le jardin des écoliers, qui est un petit jardin face à la salle de restauration. Là, vous voyez le plan de notre cuisine qui a été remodifié par rapport à cette création de cantine en régie, donc avec un réaménagement de la légumerie, de la plonge, mais également de l'espace cuisine. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, je vais suivre plutôt la diapo, ça va être bien plus simple. Effectivement, nous avons repensé l'organisation du service en salle et les approvisionnements en amont, puisque nous bénéficions des producteurs locaux. Nous avons pensé aussi à la formation du personnel en salle de restauration pour privilégier une éducation au goût pour les enfants, la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qui était très important pour nous. Ensuite, donc, au niveau de la formation du personnel, c'est Monsieur Poussard d'Agorès qui a suivi cette formation. L'enfant au cœur du dispositif de la restauration scolaire, ça a été une formation très très positive pour le personnel. Ça leur a permis de connaître comment renforcer le rôle éducatif des agents de restauration en incluant les contraintes de fonctionnement, l'organisation et les obligations réglementaires. D'appréhender l'importance du temps de repas sur le plan de développement, de socialisation et de l'autonomie, du respect des rythmes de l'enfant. Parce qu'auparavant, l'enfant mangeait très très rapidement et ne prenait pas ce temps qui est indispensable pour bien apprécier son repas. Et d'acquérir de nouvelles compétences, savoir-faire et savoir-être également. Voilà, au niveau de cette organisation. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, l'éducation au goût, qui faisait partie de cette formation. L'accent est mis sur la qualité des échanges entre le personnel de restauration et les petits convives. Le cuisinier explique à chaque repas les aliments qui se trouvent dans l'assiette, c'est un plus. Donc, l'enfant s'intéresse systématiquement à ce qu'il va manger, comment les fruits et les légumes poussent et comment ils ont été préparés. Le personnel de restauration incite les enfants à goûter le fruit, toujours qu'il n'y ait pas de refus de manger, mais simplement de goûter déjà au départ, de voir si ça plaît ou si ça ne plaît pas, et ensuite de lui expliquer ce qu'il mange s'il ne connaît pas, mais jamais forcer. Comme je vous ai indiqué au préalable, donc nous avons la chance de bénéficier au niveau de notre commune de producteurs locaux et principalement bio ou à agriculture raisonnée. Vous avez ici quelques exemples, notamment sur la viande bovine et sur les petits veaux aussi qu'ils exploitent. Pareil pour l'autre, Monsieur Mme Troidec de la ferme du Célio. Très très bonne qualité. Accent sur le zéro gaspillage. Alors, on s'est engagé effectivement dans un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, afin de réaliser des économies, mais aussi pour améliorer le service de restauration et voir au niveau du coût que ça allait nous représenter au niveau de chaque repas. Valoriser les menus, construire un plan alimentaire adapté en mettant les produits de saison à l'honneur, toujours produits de saison, et diversifier l'offre alimentaire proposée sur chaque semaine. sensibiliser les enfants en leur proposant des animations thématiques en ateliers culinaires qui sont très réguliers sur notre commune. Donc, c'est le cuisinier qui s'en charge avec son équipe. Ça marche très, très bien et les enfants sont très contents et ils en redemandent. Le recyclage et le compostage. Alors, concernant le gaspillage, je vais dire que chaque enfant dessert son assiette et systématiquement, c'est vu par l'équipe de cuisine et on arrive à pratiquement très très peu de déchets pour chaque repas, hein. Très très peu de déchets, de moins en moins. Leur apprendre aussi à cultiver, savoir ce que c'est que la terre et le respect de la terre. Donc à ce sujet, on a créé un petit jardin des écoliers face à la salle de restauration avec l'aide d'une institutrice qui était bien impliquée dans ce projet et de ses élèves. Ça a très très bien marché aussi et les enfants apprécient ce qui se trouve dans le petit jardin, à savoir des herbes aromatiques principalement, quelques pommiers, des fraises et des framboises au moment, lorsque la saison est là. Voilà, il y a eu la mise en place aussi d'un composteur, donc très utile, mais également aussi d'un récupérateur d'eau, bien évidemment. C'est associé, on a rajouté à ce service de restauration scolaire un service de portage de repas à domicile à l'attention de nos personnes âgées. Les menus, bien sûr, sont élaborés par le cuisinier. Hein. Les produits sont également bio, hein, il n'y a pas de raison, et de production locale. Le coût est modéré et ce qui nous permet de maintenir au maximum nos personnes âgées sur notre commune. C'est un service qui se développe et qui est très apprécié de la population. La campagne de communication, bien évidemment, nous l'avons pas négligée, à savoir par différents flyers, tant au niveau des parents, mais également des enfants, de la connaissance du repas avec sur chaque fiche de menu les fournisseurs, la connaissance des fournisseurs, le livret de bonne conduite à l'attention des enfants. Ils le signent, ils le nomment, ils le signent. C'est sous forme ludique et tous les ans, nous avons un retour sur ces documents. Nous avons adjoint également, je vais peut-être un petit peu préciser avant, un questionnaire annuel sur la satisfaction et des parents. Donc deux questionnaires, un sur la satisfaction des parents et un sur la satisfaction des enfants, les suggestions éventuelles des uns et des autres. Et ce questionnaire en retour nous donne une conclusion d'environ 95% de satisfaction, ce qui est un plus également pour nous encourager à faire encore mieux. Voilà, autrement, les retours sur expérience, oui, le restaurant en constant renouvellement, c'est sûr, on essaye toujours d'améliorer. Comme je vous avais évoqué initialement, donc nous avons acheté des chaises adaptées aux petits, le menu à thème qui est proposé chaque mois et qui est attendu chaque mois avec impatience. Un enfant se porte volontaire pour débarrasser les assiettes, voilà, une fois le repas terminé. Et il y a aussi une incidence sur les déchets qui sont de moins en moins, comme je vous disais. Le repas servi à l'assiette suivant la connaissance de chaque petit, c'est en général le cuisinier qui a la connaissance parfaite de chaque enfant et qui se permet de mettre un petit peu moins peut-être au départ pour qu'il puisse goûter et ensuite c'est servi autant de fois que l'enfant le veut. Programmation des visites aux différents producteurs locaux et fournisseurs de la cantine. Ça, nous allons le programmer si éventuellement la COVID se termine dans le courant de l'année prochaine. Et je vous ai parlé tout à l'heure du questionnaire de satisfaction à destination des enfants. Voilà. Création d'un magasin de producteurs en corrélation avec tous nos producteurs locaux, bien sûr, puisque nous en avons suffisamment. Ce projet qui n'a pas pu démarrer cette année, je souhaite et nous le souhaitons tous en tant qu'élus qu'il démarre dès l'année prochaine et nous travaillons sur ce sujet. En parallèle, nous intervenons régulièrement aussi dans les écoles d'agriculture auprès des futurs agriculteurs en reconversion bio ou agriculture raisonnée et les échanges que nous avons sont très prometteurs et très positifs aussi et voilà, on néglige pas non plus ce côté-là de relationnel et de communication. Voilà, je suis à l'écoute des questions si éventuellement il y en a.
Merci Roland. Oui, on a quelques questions déjà dans le chat. Alors, une première question qui a été répondue, mais peut-être on va le partager à tous, qui était une question concernant le nom du formateur.
Monsieur Poutard.
Voilà, c'est ça.
Poutard, très, très bon formateur qui a très bien passé au niveau du personnel, qui les a motivés. Et le résultat, c'est qu'actuellement, elles utilisent tout ce qu'elles ont appris et ça, c'est formidable.
Ok, merci. Alors, on a deux questions qui peuvent se rejoindre. Donc, c'était combien il y a de convives, combien il y a de repas servis par jour?
Alors, par jour, on a environ 110 à 115 repas par jour, en sachant que sont inclus les repas de portage, de repas à domicile. Donc, je vais dire même 120 repas, hein, parce qu'on a également tous les enseignants qui déjeunent dans notre, qui bénéficient de notre restauration collective. Donc, en général, au niveau à environ 10 repas de portage de repas à domicile, plus les enfants en raison d'une vingtaine. Donc, ça fait à peu près un total de 120 personnes qui bénéficient des repas journaliers.
Ok. On avait une question concernant… Enfin, est-ce qu'il y a une pesée qui est faite des déchets? Vous disiez qu'il y a de moins en moins de déchets.
Oui, donc… je pourrais vous donner… justement ce résultat-là. Je ne l'ai pas là, hein, mais je sais que c'est de moins en moins, bien évidemment, toute l'équipe est contente de ce résultat par rapport à la motivation des enfants.
Ok. Alors, sur l'aspect partage des repas, je crois qu'il y avait… Enfin, sur l'aspect partage des repas, notamment, j'imagine que c'est peut-être pour des anciens, c'est des menus spécifiques. Il y a des questions, là, il y a des questions sur les régimes alimentaires.
Oui, alors concernant le portage de repas, bien sûr, ça concerne nos personnes âgées principalement, mais également des personnes qui sortent d'hospitalisation et qui pour un laps de temps court ont besoin de ce service. Et à ce moment-là, le cuisinier est à l'écoute et prépare ses repas en fonction d'eux.
D'accord. Donc il y a, est-ce que je ne sais pas si vous l'aviez dit, le nombre d'enfants qu'il y a à l'école. Donc là, on a entendu le nombre de repas.
Nous avons 106 enfants.
Combien?
106, à raison de 5 classes.
106, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Des questions sur la notion de coût?
Le coût. Alors, le prix revient du repas en lui-même, repas simple, hein, 1,90 €. Parce que nous avons un cuisinier qui est très sensible justement à respecter ce coût. Donc nous facturons aux parents les factures, puisque donc il y a la prestation aussi CAF hein, qui vient en corrélation. Donc le repas est facturé aux parents entre 3,44 et 2,23 suivant leur quotient. Hein. Et ensuite, nous, pour le prix de revient total, il faut rajouter 1,50 €. Donc le prix du repas, tout compris, charges comprises, et aux environs de 4,95 €, 5 €, pas plus.
Et facturé aux parents, du coup, vous disiez?
Facturé aux parents entre 3,44 et 2,23, suivant le quotient familial. Mais c'est une volonté aussi de nous, en tant qu'élus, de ne pas charger la facturation aux parents. Et ça, on le maintient pour cette nouvelle mandature.
Juste pour précision, dans le prix total donc de 4,95 €, ça inclut les charges
du personnel, charges d'électricité.
Et là-dessus, tu parlais d'1,90 € du prix de revient.
1,50 € à peu près de ces charges-là. Et nous, le repas nous revient à peu près à 1,90 €, pas plus. Il est très vigilant à ce que ça ne dépasse pas 1,90 €. Donc 1,90 € plus…
Quand tu dis que ça vous revient, c'est-à-dire que c'est la part que paye la commune, c'est ça?
Que paye la commune, voilà. Ouais.
Et est-ce que sur les 4,95 €, tu as une idée de la part des denrées alimentaires? Juste la partie denrées.
Denrées, c'est celle-là, 1,90 €, je me suis mal expliqué.
Ah, voilà, 1 €. C'est ça. Okay. D'accord, c'est ça que je ne comprenais pas.
Oui.
Okay. Donc là, on est en TTC de nouveau ou hors taxe?
Oui, non, tout est TTC.
TTC, d'accord.
D'accord. Oui.
Et vous avez combien de personnel là-dessus sur cette…
Alors, sur ce service, nous avons 2 en cuisine, à savoir un chef cuisinier et une aide cuisine, et ensuite 3 au niveau de la salle de restauration.
Alors, est-ce que j'ai posé toutes les questions du chat? Il y avait une question… Du questionnaire Alors, donc, serait-il possible de recevoir par mail les questionnaires pour les utiliser après adaptation ?
Oui, bien sûr. Je vous les transmettrai de façon à ce que ça donne des idées aux autres familles. Et c'est très apprécié des parents, bien sûr. Puisque...
Il y avait une question sur le recrutement du cuisinier.
Oui, alors sur le recrutement du cuisinier. Au départ, nous avons eu quelques difficultés. Nous avons eu un premier recrutement avec une dame qui donnait satisfaction, mais qui s'est retrouvée en congé de maternité et avec un congé maladie associé au congé de maternité qui n'a pas pu reprendre son poste. On a fait appel au CDG avec un remplacement d'un jeune cuisinier sortant de lycée et pas assez formé pour ce genre de restauration collective en régie. Donc, on a contacté ce lycée pour leur dire qu'il fallait les former un petit peu plus avant de les amener sur site, notamment parce qu'il était le seul cuisinier au niveau de notre collectivité. Ensuite, nous avons un troisième recrutement, mais celui-là ne nous a pas satisfait, donc on y a mis fin. Et donc actuellement, nous avons un cuisinier qui est là depuis plus d'un an et qui donne entière satisfaction à tout point de vue. Il est force de proposition au niveau des menus. Il fait le pain aux enfants, donc c'est extraordinaire parce que les enfants mangent le pain fait par notre cuisinier. Hein. Les brioches, enfin vraiment les enfants sont gâtés et c'est une perte. Comme disait monsieur le maire de Bouvron, mais nous avons également une perle.
Est-ce que tu peux nous préciser, justement, est-ce qu'il y a eu un cahier des charges rédigé pour le recrutement et comment ça a été, enfin, comment vous avez trouvé au final? Est-ce que vous êtes passé encore par le centre de gestion ou est-ce qu'il y a eu d'autres biais pour votre.
Le centre de gestion, mais également d'autres demandes d'emploi, hein, et donc nous avons reçu toutes les personnes. Il y avait monsieur le maire, il y avait la DGS, il y avait moi-même et une autre collègue. Rapidement porté sur ce monsieur qui voilà. Vous savez, après avec l'inconnu, hein, mais on a bien choisi. Et on est fiers de notre recrutement. Parce que...
Vous aviez eu beaucoup de candidatures ?
Oui, une dizaine.
D'accord.
On a une question de Rémi Bélé de Clessé, là, qui pose une question sur le côté grille de prix par rapport au quotient familial.
Oui.
Vous disiez, voilà, est-ce que combien d'échelons, comment payent les parents, par virement au trimestre?
Alors, c'est par virement, hein. C'est par virement et par mois. Hein. Alors, en tranches, nous avons 5 tranches. La première tranche inférieure à 650 euros, la deuxième tranche avec un COEF de 650 à 799. La troisième tranche avec un COEF de 800 à 1199, quatrième de 1200 à 1599 et la cinquième au-delà de 1600, bien sûr. Voilà. Les repas adultes sont facturés 5,30 euros, repas adultes, c'est-à-dire les enseignants ou éventuellement si une personne âgée veut venir pour X raison manger dans le restaurant. Le repas enseignant, personnel communal, est facturé à 4,80 euros.
J'ai une question concernant le passage en régie. Donc, du coup, la cuisine centrale existait.
Oui, en réchauffe hein, uniquement. Hein, donc, il a fallu changer tout ce que nous avions donc, dans l'espace cuisine, à savoir le piano et les fours.
En liaison chaude.
Oui.
D'accord. OK. Donc, vous n'aviez pas récupéré du personnel de la cuisine, en fait, enfin, du prestataire.
Non, du tout. C'était un personnel communal qui se chargeait de la réchauffe.
D'accord. Okay. Donc, vous avez recruté à la fois le chef cuisinier, mais aussi le reste du personnel ou ça a été un…
Non, ça a été un choix du personnel avec un appel à candidature et qui donne entièrement satisfaction. Non seulement je parlais du cuisinier, mais également du personnel qu'il a sous sa coupe. Et je pense que c'est une très bonne équipe et managée par un excellent employé en cuisine.
On avait une question de…
Pardon. Au niveau du recrutement, parce que vraiment, nous, on l'a su. Il a fallu qu'un quatrième recrutement pour se rendre compte que c'est très, très important.
On a une question sur l'amorce du projet, enfin sur la genèse. Qui a été le moteur du lancement et de la menée du projet Voilà, donc ouais, Catherine alors... Chantreau de Poule des Gardes dit qu'elle est impressionnée par la rapidité de mise en place.
Oui, voilà, justement. Donc, lorsque bah, nous avons été élus une première fois en 2014, hein, donc c'était notre premier mandat, la plupart de ceux qui étaient là. Et donc, on avait déjà, donc lors de notre campagne, nous avions écouté les habitants hein, en les rencontrant. Et effectivement, au niveau des parents d'élèves, il y avait une insatisfaction totale de la prestation extérieure. Donc ça, on avait bien retenu. Mais le temps qu'on prenne un petit peu nos marques en mairie, donc ça a duré à peu près 2 ans. Hein, et en 2016, à partir de juillet-août 2016, nous avons contacté Brudet de façon à avoir justement pouvoir initier des visites sur différentes cantines qui marchaient très bien et qui avaient déjà une expérience. Et c'est pour ça que nous sommes déplacés sur le 35, notamment à Muel et à Langouette. Hein, et ça nous a conforté dans notre choix, bien évidemment. Donc, il y avait le maire, il y avait les adjoints hein, et puis toute l'équipe municipale autrement. Hein, petit à petit, hein, c'est...
Donc, on a une question aussi. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres alimentaires ? Pose Rémi Bélé de Plessé.
Non, pas nécessaire, de par déjà le fait que nous sommes une petite collectivité et de par le fait que nous avions sur place les producteurs locaux. Nous avons travaillé aussi avec la restauration, nous travaillons toujours avec la restauration bio hein, à Daoulas, avec sa responsable et c'est un travail en commun parce que toute notre épicerie autre que nos producteurs locaux vient de la restauration bio, bien évidemment, l'épicerie bio. Et nous avons sur place aussi, nous avons la chance depuis un an d'avoir une épicerie locale qui a quelques produits bio et nous travaillons aussi également avec elle. Hein. Et notre pain, maintenant, fait sur place par notre cuisinier depuis septembre.
Donc, effectivement, vous avez travaillé avec la maison de la bio qui est autour de la tasse. Oui. Pichon, elle est là aujourd'hui.
Donc, voilà, Mme Busson, voilà. Je ne sais plus ton nom.
Florence Busson, voilà.
Oui, ouais, aussi. Ouais, ouais. Ouais. Il a été un très bon support aussi au démarrage, hein, avec les conseils qu'il nous fallait, comme vous, Maïwenn, à ce sujet. Et c'est vrai que c'est indispensable, moi je dis, pour démarrer et avoir pas le culot, mais avoir envie de le faire jusqu'au bout.
Laetitia, je ne sais pas si ça répondait à ta question. Donc tu posais une question sur voilà, les approvisionnements. Ouais, est-ce que ça passe par une plateforme ou un gros bio ? Non, finalement, vous aviez tout en… Non,
on avait sur place et la viande et les produits laitiers et les fruits un petit peu moins. Mais à ce moment-là, on se rapproche d'un fournisseur finistérien, quoi, bien évidemment. Alors, on incite aussi les agriculteurs à se spécialiser en fruits et notamment pommes, poires et fruits rouges. Fruits rouges très, très bons pour la santé également. Donc, je pense qu'on en aura un prochainement sur notre commune et ce ne sera pas négligé non plus.
Voilà, ben merci, merci Roland. Je pense qu'on a, plus trop de questions pour l'instant. Je vous propose d'enchaîner avec la présentation par Maïwenn des 7 clés de réussite, voilà, extrait des retours d'expérience capitalisés par Brudet. Donc, Maïwenn, à toi la parole.
Donc, effectivement, je vais poursuivre. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter, ben, vous allez voir que les clés de réussite qu'on a identifiées, on en a déjà eu des exemples très clairs par les retours d'expérience de Bouvron et de Rosnoen. Mais voilà, j'ai fait un petit diaporama pour vous présenter donc le document de mutualisation qu'on a réalisé en 2017 sur les retours d'expérience qui permettent voilà, des collectivités de développer une restauration collective bio et locale. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça rapidement en commençant par le pourquoi le bio local dans la restauration collective, même si les gens autour de la table, je pense qu'en sont convaincus, et surtout identifier les 7 facteurs de réussite, vous présenter les 7 facteurs de réussite pour vous permettre de passer à l'action. Et on finira par les structures et les outils pour vous accompagner très rapidement. Donc, pourquoi bio local ? Et ben en fait, je crois que vous avez tous à peu près la réponse. Hein. L'idée, c'est de pouvoir privilégier l'économie locale, donc les circuits courts, les circuits et puis les commerçants. Ça peut passer aussi par les boulangers, les bouchers, ce n'est pas forcément les agriculteurs, les transformateurs. pour voir effectivement une alimentation saine, durable et gustative. Donc, effectivement, privilégier le bio ou au moins le durable ou sans OGM, enfin, avec d'autres appellations, en privilégiant les produits de saison, les produits locaux, évidemment, les produits qui consomment moins d'énergie, etc. Donc, et par là, donc, le troisième volet, c'est de protéger évidemment l'environnement. Voilà, donc les 7 facteurs que l'on a identifiés, 7 facteurs de réussite qu'on a identifiés pour passer à l'action, c'est-à-dire pour effectivement partir vers une restauration bio et locale au niveau des collectivités. Donc, il y a associer les acteurs, donc cette question de la régie ou de la DSP. Donc, on a eu 2 exemples qui nous ont été présentés ce matin qui sont intéressants. La question de l'approvisionnement, de la logistique, des questions de réglementaire et les recommandations, les coûts évidemment, les marchés publics et puis favoriser le plaisir de bien manger. Donc je vais vous parler assez rapidement quand même de ces 7 points. Donc le premier, c'est effectivement l'association de tous les acteurs. On a bien vu que pour que ça fonctionne, il faut vraiment que tous les acteurs soient concernés et partagent une ambition partagée d'aller vers le bio. Et ça, c'est indispensable pour que ça fonctionne. Bien évidemment, les élus. On a bien vu que si les élus, si un projet, le projet de Rosnoen, effectivement, par exemple, a été très rapide dans sa mise en œuvre, mais aussi parce qu'il y avait une équipe municipale très engagée et très volontaire. Donc ça, c'est important. Et que ce partage d'expérience qu'a évoqué Roland avec d'autres collectivités, ça permet aussi d'avancer et de bien définir son projet. Évidemment, la place du cuisinier et des agents de cuisine est fondamentale. Un cuisinier qui n'a pas envie de cuisiner des plats particulièrement avec des légumes de saison ou avec où il faut éplucher les légumes, etc., ou qu'il faut les cuisiner autrement, ça ne fonctionnera pas. Donc, effectivement, leur rôle est fondamental. Et par là, évidemment, les formations et la sensibilisation sont des outils importants. La place des parents d'élèves, leur implication, évidemment, dans dans la présentation des menus, donc la communication qui est faite envers eux, l'invitation à ce qu'ils participent plus activement dans ces choix est importante. C'est ce qu'on a vu aussi à Bouvron, par exemple, dans la DSP, puisque c'est porté par des parents d'élèves. Et bien évidemment, l'équipe éducative qui peut participer à la sensibilisation des enfants en intégrant l'alimentation ou l'agriculture dans leur programme scolaire ou en créant un potager ou en faisant visiter des fermes. Enfin, il y a 100 000 façons pour les équipes éducatives de s'impliquer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, donc, c'est cette question du passage en régie ou la gestion en régie ou en délégation de services publics. Donc, quelle démarche ? On a bien vu par les 2 exemples, il n'y a pas forcément une qui est mieux que l'autre. Souvent, on a tendance à penser que la gestion en régie, elle est plus adaptée. Alors, c'est vrai que dans les petites communes, elle est souvent plus adaptée, mais ce n'est pas forcément la seule solution. Donc, effectivement, en ce qui concerne la régie, alors c'est plus de responsabilité parce qu'effectivement, c'est gérer une équipe, c'est gérer des salaires, c'est gérer des absences, c'est gérer, c'est plus de contraintes, on va dire, mais c'est aussi beaucoup plus de maîtrise sur les choix politiques, sur les choix alimentaires, sur les choix, voilà, on a bien vu les 2 exemples nous ont montré que la place de la collectivité est fondamentale. Donc effectivement, régie, ça veut dire aussi une cuisine et du matériel adapté, donc ça peut avoir un coût non négligeable, et puis de l'entretien, et du personnel engagé dans la démarche. En ce qui concerne la délégation de services publics, il y a des délégations partielles ou totales, donc on peut déléguer partiellement finalement des éléments, on n'est pas obligé de tout déléguer, ça peut être par exemple, je donne l'exemple souvent du Clos de Saint-Égonnec qui a finalement seulement qui sous-traite avec une société privée, Harmonie, qui met à disposition la cuisinière. Et cette cuisinière, elle passe les commandes auprès des fournisseurs spécifiés dans le marché qu'ils ont avec cette entreprise. Donc là, finalement, la cuisinière et la commune du Clos de Saint-Égonnec ont une certaine maîtrise des repas. Mais la cuisinière, par contre, elle est salariée d'une entreprise et pas de la commune. Donc la commune se décharge de cet aspect-là. C'est un exemple. Finalement, on peut avoir une délégation totale. Donc, effectivement, toute l'organisation est déléguée à une société. Et là, il y a des petits points de vigilance qu'on a soulignés sur le fait de pouvoir intégrer l'approvisionnement bio local dans les marchés pour être sûr que dans le cadre d'une délégation de service public, on puisse avoir quand même son mot à dire sur le choix, notamment des animaux. En ce qui concerne l'approvisionnement et la logistique, donc on a vu qu'il y avait plusieurs moyens finalement de s'approvisionner. Donc la commande directe au producteur, encore une fois, c'est le cas de Rosnoen, mais c'est le cas de beaucoup de petites communes rurales qui ont effectivement à proximité des producteurs ou des transformateurs qui sont à même de pouvoir répondre à la demande. notamment quand c'est des petites cantines où il n'y a pas forcément besoin d'une grande quantité. Mais donc voilà, il y a cette possibilité. Deuxième possibilité, c'est le regroupement de commandes entre différentes cuisines ou entre différentes communes. Je peux vous prendre l'exemple, par exemple, de Saint-Brieuc Agglomération, qui à l'échelle de 15 communes mutualise un marché public pour leurs produits bio et locaux. Alors, ils se font aider par la maison de la bio des Côtes d'Armor. Mais voilà, donc c'est des possibilités pour réduire les coûts, notamment de rassembler les commandes. Et puis, il y a aussi évidemment les groupements de producteurs et les plateformes de distribution qui existent, qui fonctionnent de mieux en mieux. Donc, je peux citer par exemple les plateformes départementales agri-locales dans le Finistère et les Côtes d'Armor. Finistère qui est mis en place par le département, qui sont des agri-local, c'est une plateforme nationale, mais déclinée à l'échelle départementale. Ou alors les groupements des producteurs bio, donc comme les réseaux Manger Bio ou les groupements d'agriculture bio, Bon Plan Bio, qui sont tous des réseaux de producteurs qui permettent donc des commandes groupées auprès de plusieurs producteurs. Et on a aussi des plateformes plus locales, des associations qui permettent aussi des structures type Elocop, Apoder Christ ou du foin dans les sabots. Alors je vous donne des exemples finistériens parce que moi je suis au Finistère, je connais un petit peu mieux ces réseaux, mais il y en a partout qui regroupent effectivement des producteurs locaux. Donc, quatrième entrée sont effectivement la réglementation et les recommandations. Donc, il y a des choses auxquelles les communes sont obligées de se soumettre. Donc, effectivement, notamment les recommandations du GEMRCN, ce nom un peu barbare qui veut dire groupe d'études des marchés de restauration collective et de nutrition, qui en fait détermine les besoins nutritionnels auxquels on est obligé de se plier pour préparer les repas, mais qui permet aussi, une certaine dans la lecture fine, permet aussi d'adapter les repas, notamment d'introduire des protéines végétales, de proposer des repas végétariens, d'adapter la quantité aux besoins réels, etc. etc. Donc ça, c'est une chose importante. Ensuite, je vais vous parler de la loi Egalim avant, parce que c'est une obligation donc, qui existe depuis 2018. Fin 2018, cette loi qui est très vaste, qui va bien au-delà des cantines, mais en ce qui concerne, on va dire, la restauration locale, on va retenir quelques chiffres. Donc, l'obligation d'avoir 50% de produits de qualité durable, donc au moins 20% de produits biologiques d'ici 2022 dans les cantines, qui est un grand volet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On en a beaucoup parlé comme étant un élément fort pour permettre de passer en bio local, c'est justement de travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire et aussi la réduction des déchets, notamment des contenants. L'interdiction d'utiliser des choses jetables, des fourchettes, des assiettes, etc. et l'interdiction de contenants plastiques d'ici 2025 dans les cuisines. Donc ça, c'est certains éléments. Il y en a bien d'autres. Vous pourrez trouver des liens sur la loi Egalim assez facilement. Et dernier élément que je voulais vous souligner, c'est les projets alimentaires de territoire qui ont été mis en place par le ministère de l'Agriculture dès 2014 et qui sont portés par des collectivités. Alors en fait, qui sont portés souvent par des intercommunalités, par exemple du Pays de l'Orient ou de Redon Agglomération, qui a mis en place, je crois que la commune de Plessé pourra nous parler éventuellement du PAT de Redon Agglomération, qui ont été mis en place, qui permettent en fait de fédérer tous les acteurs d'un territoire, donc très largement les acteurs très larges, sur la question de l'alimentation. Actuellement, le département du Finistère porte aussi un plan alimentaire territorial, ainsi que la commune de Plouguerneau. Donc voilà, on voit bien qu'à différentes échelles, on peut porter, ça permet aussi d'asseoir une politique locale ou départementale ou intercommunale. En ce qui concerne les coûts, on voit bien que c'est des questions fondamentales et que c'est un petit peu le nerf de la guerre. L'important de retenir, c'est qu'effectivement, le coût, c'est bien un coût global qu'il faut réfléchir et non seulement au prix des aliments. On a bien vu que le coût des aliments, c'est pas forcément ce qui est le plus important dans le coût global du repas. Pour réduire les coûts, avant de revenir sur les mesurer un petit peu les éventuels surcoûts, pour réduire les coûts, on a vu qu'effectivement, il fallait travailler sur le gaspillage pour le réduire, qu'on pouvait varier les apports protéiniques. Donc, effectivement, on pouvait des fois enlever la viande parce que c'est effectivement la viande dans les denrées alimentaires qui coûte cher. Donc, on pouvait faire des repas végétariens, remplacer des apports protéiniques par des apports végétaux, adapter les quantités aux besoins réels. On voit bien aussi que pour éviter, ça revient au gaspillage, éviter que la moitié de l'assiette soit jetée, c'est d'adapter les quantités par rapport à l'âge, notamment des enfants, etc., et à leurs besoins. Le respect de la saisonnalité aussi permet de travailler avec les agriculteurs locaux d'une part et aussi de réduire les coûts, évidemment. Et un autre aspect que l'on a abordé avec Rosnoen et qu'on a vu aussi dans d'autres collectivités qui ont beaucoup travaillé, je parle des hommes de Plébercris qui a beaucoup travaillé sur cette question, d'adapter le service, le mobilier et le fonctionnement d'une cantine. Donc, passer en self, par exemple, serait un moyen de réduire la quantité parce que les enfants adaptent la quantité dont ils se servent, de mettre le pain plutôt en fin de service qu'en début de service, adapter la taille des assiettes par rapport aux enfants, etc., etc., le mobilier. Donc, tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte, qui peuvent permettre de réduire les coûts. En ce qui concerne les éventuels surcoûts, donc, comme je vous disais au départ, l'idée, c'est de raisonner en coût global. Donc, il faut noter que les denrées, en général, ça varie entre 20 et 35% du coût total de repas. Et là-dedans, il y a à peu près la moitié qui sont de la viande. Donc, c'est important, mais en même temps, on voit bien que ce qui coûte cher dans les repas, c'est évidemment la part des employés ou la part des employés, eux, de l'entretien et les fluides, évidemment. Donc, c'est un choix politique de prendre en charge ces surcoûts par la collectivité. Donc, on a bien vu qu'il y avait des barèmes qui étaient basés sur le quotient familial ou d'autres types de barèmes et que donc le prix des repas, souvent, s'il y a surcoût, et on a vu qu'à Bougon, il n'y avait pas de surcoût, et dans bien des cas, il n'y a pas de surcoût, mais s'il y en a, souvent, c'est la commune qui l'absorbe parce qu'elle fait le choix d'offrir des repas de qualité à ses enfants. Ce que l'on constate aussi, beaucoup de communes nous font des retours sur le prix des repas, sur les prix facturés. Alors, je parle de prix facturés aux enfants et pas forcément aux adultes, donc il y a des repas servis dehors, mais de toute façon, les prix sont rarement contestés. Ils vont de moins de 3 euros à 5 euros selon les barèmes, selon les communes, etc. Il y a peu de communes qui constatent que les parents rechignent finalement à payer les repas parce qu'ils trouvent que sans doute que le prix correspond à quelque chose de raisonnable. En ce qui concerne la traduction de cette volonté de faire du bio local dans une commande publique, on voit bien que il y a plusieurs éléments aussi. Donc, il faut identifier les fournisseurs locaux. Donc, c'est un gros travail de sourcing, comme on dit en anglais, mais j'aime pas trop l'anglicisme, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon diaporama. L'idée, c'est d'identifier un petit peu la ressource qu'on a localement. C'est de définir aussi ces critères pour favoriser l'approvisionnement local. Peut-être définir les critères et les objectifs de la collectivité. Il y a des choses qui peuvent être faites comme d'allotir, notamment par exemple avec des lots bio équivalents. Donc, sortir un petit peu la partie bio et équivalent. Bio ou équivalent qu'on peut mettre dans un marché public. On peut éviter le seuil des marchés publics est de 40 000 euros hors taxes par an, qui est relativement élevé, parce que c'est par finalement ça peut être par lot, donc qui est relativement élevé pour des grosses communes, non, mais pour des petites communes, elles n'atteignent jamais ces chiffres-là. Donc c'est aussi pour ça que finalement cette contrainte des seuils ne concerne pas les plus petites communes. Dans l'idée de choisir, il faut effectivement privilégier le mieux disant que le moins disant pour être sûr d'avoir de la qualité, de s'accompagner des partenaires et des conseils. Donc, on a bien vu qu'il y avait plein de structures qui pouvaient vous accompagner, la Maison des Bio, mais aussi d'autres structures qui peuvent vous accompagner pour faire ce passage en bio local. Et l'important aussi de suivre ce marché, c'est pas parce que quand on passe un marché, il faut être sûr d'avoir un avenant annuel et de vérifier tous les ans. Donc, d'être très vigilant sur l'évolution de ce marché, dans la mettre en vigilance qu'on a identifié. Et pour finir, donc, on a bien évoqué le plaisir de bien manger et d'appliquer finalement les enfants qui sont les clients, on va dire. C'est important de faire en sorte que ce soit partagé parce que si les enfants évidemment mangent bien et apprécient ce qu'ils mangent, et bien, ce sera d'autant plus fonctionnel. On a bien vu que les questionnaires de satisfaction montrent que quand il y a une attention portée à l'enfant et au repas, bah, c'est très efficace. Donc, bah, évidemment, une cuisine attractive, ça veut dire des cuisiniers qui sont formés ou qui sont engagés. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir des animations culinaires avec des repas spécifiques, un repas par mois à thème, des journées portes ouvertes pour les parents, voilà, des choses comme ça qui permettent un petit peu vraiment de faire vivre la cuisine, le cuisinier qui peut venir expliquer ce qu'il fait, qui peut venir partager, sonder les enfants. Évidemment, impliquer les enfants dans un potager scolaire. On a vu l'exemple de Rosnoël, je prends souvent l'exemple de Neuliac, où le cuisinier a son potager et c'est les enfants. Donc, l'image que vous voyez en bas, là, c'est le potager de Neuliac et ainsi que les belles courges que l'on voit sur la photo d'en bas. C'est important aussi que les enfants mettent les mains à la terre, voient un petit peu ce que c'est et comprennent. C'est aussi peut-être par le biais de visites de lieux de production pour que les enfants comprennent ce qu'ils mangent, d'où ça vient. Et évidemment, cette responsabilisation au gaspillage et au fonctionnement des repas dont on a pu voir des exemples. Voilà, j'ai fait le tour, je pense que c'est à peu près très global, mais il y a bien d'autres choses à voir. En ce qui concerne les structures pour accompagner les collectivités, il y en a plusieurs, donc je vous en ai mis quelques-uns, évidemment, ce diaporama, il vous sera transmis, donc vous aurez les liens. Donc, au niveau des réseaux interprofessionnels qui comprend les agriculteurs, les entreprises, les associations, donc c'est vraiment des réseaux larges. En Bretagne et Pays de la Loire, et bien donc on a Initiative Bio Bretagne et Interbio Pays de la Loire. En ce qui concerne les groupements de producteurs bio à l'échelle régionale, voire nationale, voire déclinée départementale, on a la Fédération régionale d'agriculture biologique, on a les GAB départementaux, et puis la FNAB au niveau national avec l'implication sur les repas biologiques. La Chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture départementales qui sont là aussi pour accompagner les collectivités dans cette, donc qui ont de plus en plus cette vision sur la production locale et sur l'accompagnement vers des cantines bio locales. Le réseau EGORES qu'on a souligné, qui sont des réseaux professionnels en bas qui accompagnent surtout au niveau de la formation, les cuisiniers, les agents de service, etc., pour aller vers du qualitatif. Sur la question de lutte contre le gaspillage, on voit que les structures intercommunales, dans les syndicats de déchets, sont très impliquées sur cette dimension-là. Donc, c'est des structures auxquelles vous pouvez aussi vous rapprocher, qui mettent en place des outils pour aider les collectivités. Et finalement, les réseaux associatifs qui accompagnent les collectivités. J'évoque le réseau national 1 plus bio, qui est un réseau aussi qui peut accompagner encore une fois les collectivités dans la mise en place de cantines bio, et bien évidemment le réseau Brudet, autant se faire un petit peu de pub aussi, pour échanger avec d'autres élus et visiter d'autres collectivités qui ont mené des opérations, ce qui n'est rien de tel que d'aller voir ce que d'autres ont fait. Et pour finir, des outils pour vous accompagner, donc voilà, une carte interactive sur des producteurs bio par exemple, les liens vers les plateformes agri-locales dont je vous ai parlé, sur le lien des producteurs et des consommateurs, donc agriculteurs existent en Bretagne, dans le Finistère et dans les Côtes d'Armor. Les groupements de producteurs manger bio qu'on va retrouver dans tous les départements qui permettent aussi de mettre en lien les producteurs et les consommateurs. Je souligne juste que demain, au niveau du Finistère, le département qui porte l'outil agri-local et qui porte aussi les assises départementales de l'alimentation qui auront lieu demain. Donc, vous pouvez encore vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, c'est ouvert. Vous pouvez le faire aussi en webinaire et c'est exactement. Donc, ça concerne les Finistériens, mais les autres aussi, ils sont invités si vous êtes intéressés par cette démarche. La loi Egalim, je vous ai mis un lien vers, pour en savoir plus. Et aussi sur les plans alimentaires territoriaux dont je vous ai parlé. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Et donc, j'arrête le partage et donc on va passer aux questions plus globales sur cette présentation d'une part si vous le souhaitez, mais surtout l'idée c'est que vous partagez entre vous, donc peut-être prendre la parole oralement ou par le chat, je laisse Lima s'occuper du chat, mais n'hésitez pas à demander à prendre la parole pour faire part de vos expériences d'une part, peut-être qui vont abonder dans le sens des choses qu'on a pu voir ou au contraire qui vont, c'est important aussi de peut-être d'identifier les problèmes rencontrés. On a vu, par exemple, trouver un cuisinier, ce n'est pas forcément chose facile et que des fois, ça peut être un sacré frein dans la mise en œuvre d'un projet de ce type-là. Donc, ça, c'est un problème, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, c'est important aussi de souligner peut-être les difficultés que vous avez ou que vous avez rencontrées et les solutions que vous avez peut-être trouvées pour aider les autres à avancer. Voilà, j'en ai assez dit, je vous laisse la parole.
Alors, qu'est-ce qui souhaite prendre la parole? Sinon, voilà, donc on a Emmanuel Duzet de Plouer, oui, je vous en prie, allez-y.
Je souhaite, oui.
Alors, peut-être Emmanuel et puis Rémi après, d'accord? Alors, Emmanuel. Oui, ça y est.
Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis Emmanuelle Divisé, première adjointe sur la commune de Plouer-sur-Anse, en charge des affaires scolaires, périscolaires et du développement durable. Voilà, donc on peut vous partager notre petite expérience au niveau de Plouer. Peut-être que monsieur le maire qui est avec moi a quelques mots à dire sur la commune très rapidement.
Oui, donc je complète juste la présentation de la commune. On est une commune de un peu plus de 3500 habitants dans l'arrondissement de Dinan, à peu près quasiment à égale distance entre Dinan et Saint-Malo. Et effectivement, donc, cette démarche de la restauration, du moins l'internalisation de la restauration scolaire, est intervenue en 2006 après une amorce et une réflexion qui a été engagée en 2003. Donc, on a un petit peu de recul aujourd'hui sur le fonctionnement. Mais je vais laisser Emmanuel peut-être compléter un peu plus précisément notre organisation et puis évoquer peut-être après quelques points de vigilance, parce que aujourd'hui, là, jusqu'à présent, on a disons, un tableau qui est assez, assez flatteur sur toutes les expériences qui ont été présentées. Nous, on a aussi identifié quelques petits écueils ou quelques petits points de difficulté qu'il est bon aussi à avoir en tête, parce qu'aujourd'hui, remplir tous les objectifs que l'on peut se donner, ça demande aussi toute une stratégie et de parfois faire lever quelques freins que l'on peut rencontrer au jour le jour. Et là, je te redonne la main.
Merci Yann. Oui, donc nous avons une restauration scolaire en régie. Nous préparons de l'ordre de 550 repas par jour. Donc, outre nos écoles qui représentent à peu près un effectif de 257 enfants, nous fournissons des repas pour l'école privée de la commune et puis pour deux écoles aussi en périphérie, Langourlet-sur-Rance et la Vicomté-sur-Rance. Donc, voilà ce qui nous amène à cet effectif de 550 repas. Donc, sur la fréquentation de nos cantines, on est à un taux de fréquentation de l'ordre de 90%, même un peu plus, sachant qu'en ce moment, avec le contexte sanitaire, on est un petit peu en baisse, car certaines écoles ne sont pas en mesure d'accueillir tous les effectifs au niveau de leur cantine. Donc, ils ont demandé aux parents, dans la mesure du possible, de garder leurs enfants. Voilà, donc nous, au niveau de nos respects de la loi EGalim, on est à 42% de produits durables, dont locaux, dont 32% issus de l'agriculture biologique. Donc on travaille avec des groupements d'achat, mais également aussi en direct avec des producteurs. Sur le coût du repas, donc nous, le coût facturé aux autres communes, c'est 3,10 €. Sachant que sur ce coût-là, on a à peu près la moitié qui correspond au coût matière, à peu près de l'ordre de 1,77 €. Voilà, donc la moitié, hein, ce sont les charges de personnel et puis les charges fixes. Qu'est-ce que je peux vous dire autrement? Donc nous aussi, on est dans un objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais on est aidé en cela par notre EPCI, qui anime des réunions avec nous à ce sujet. On est dessus cette année. On a tenté une approche l'année dernière, mais avec le contexte sanitaire, on a dû recommencer cette année. On n'a pas eu assez de temps, malheureusement. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur les points de vigilance? Disons que nous, alors, on peut décider de faire uniquement du bio. Ça peut être au détriment aussi de la proximité. Donc ça, il faut voir aussi, il faut aussi trouver la juste mesure entre la proximité, le bio, la qualité, et c'est pas toujours évident. On arrive aussi parfois en bout de ligne, en ce sens que si une année la production n'a pas été très bonne, on va dire sur des tomates ou un autre légume, le producteur va privilégier peut-être les gens qui va fournir dans les magasins ou sur les marchés. Et donc, nous, les cantines, eh bien, on arrivera à la fin et on n'aura pas forcément les volumes qu'on a souhaités. Donc, c'est difficile parfois pour les fournisseurs de s'engager sur un volume. Nous, on va avoir sur un repas plus de 70 kilos de courgettes, par exemple. Donc, ça, c'est des volumes qu'on ne peut pas toujours nous assurer. Ça, c'est un frein. Voilà. On peut avoir aussi des suremballages sur des produits. Ça, on n'en parle pas forcément. Mais nous, par exemple, pour le fromage, on a fait le choix d'acheter le fromage en tome pour le fromage donc à pâte dure. Et donc, ça nous permet de couper des parts à la taille de ce qu'on souhaite proposer aux enfants. Et donc, voilà, on trouve que par rapport au suremballage, c'est une démarche intéressante. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, Yann? J'essaie de ne pas faire trop long.
Peut-être sur l'aspect, parce que je sais que dans la salle sont intéressés sur des projets de mutualisation avec les autres communes, sur les relations peut-être avec les communes avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que ça s'est fait dès le départ? Est-ce que ça s'est fait progressivement?
Ça s'est fait progressivement et la dernière commune à être entrée dans la boucle, à savoir la Vicomté-sur-Ance, c'est depuis cette année. C'était une demande de leur part et donc pour nous, il n'y avait aucun souci. Bon, sachant que là, on n'ira pas plus loin. Hein, parce qu'en termes de personnel, donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est à 12 personnes, 12 agents, sachant que bon, on n'est pas en équivalent temps plein, on a à peu près un petit peu moins de 4 personnes en équivalent temps plein sur le poste restauration. Hein. Voilà, donc sur la commune, ça se fait progressivement. Donc ce qu'on a souhaité, c'est travailler ensemble sur, par exemple, essayer de trouver ensemble, installer des nouveaux producteurs, voir de quelle manière on pouvait entrer tous ensemble dans les objectifs, dans un objectif plan alimentaire territorial.
Voilà. Ok, merci. Je crois qu'il y avait… Alors, Rémi de Plessé, je ne sais pas si tu veux intervenir tout de suite. Sinon, j'aurais pris peut-être la question de Vincent Duvic de Bignon sur l'aspect mutualisation, je pense.
Oui, en fait, j'ai une autre visio qui commence à 11h30.
Ah, d'accord.
C'est un peu compliqué. Je suis désolé.
Non, mais
très rapidement, parce que il s'est eu avec Nima au téléphone. Ouais. Pour commencer, merci en fait pour ces échanges d'expériences qui sont super enrichissantes, voilà. Et du coup, ça nous permet nous en fait de réfléchir aussi sur notre secteur. Deux choses en fait. Donc moi, je suis un nouvel élu de Plessé, premier adjoint à la commune de Plessé depuis le mois de mars, et puis vice-président à Redon Agglomération en charge de la transition alimentaire, de la transition énergétique, et aussi du coup à l'économie agricole. Je ne vais pas vous redire tous les objectifs en fait du PAT de Redon Agglomération. Peut-être que je vous les ferai envoyer par Mima en fait, et puis du coup vous les reverrez en fait les objectifs qui étaient donnés en fait au niveau du plan alimentaire de territoire de Redon. Mais juste en fait pour donner suite à ce premier travail en fait du PAT sur Redon, nous il nous semble important en fait de créer maintenant en fait une vraie politique alimentaire de territoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communes en fait et des nouveaux élus qui sont arrivés à Redon Agglomération et qui se posent la question de l'alimentaire chez eux. Donc avec certaines communes pilotes, là je vois qu'il y a Fabien qui est là de Haller, il y a aussi Concret chez nous en fait qui se posent des questions. On va essayer de travailler là-dessus pour mettre en place peut-être des régies alimentaires, peut-être des régies agricoles en fait sur les communes, et puis au-delà de tout ça, développer encore l'offre en fait des paysans sur le territoire, parce qu'on le voit très très bien en fait qu'il y a beaucoup en fait de paysans qui sont en circuit court actuellement, mais il nous en faudrait encore d'autres. Quand je dis offre, je dis aussi peut-être travailler aussi peut-être sur des conserveries ou sur des outils de transformation pour les produits alimentaires, et puis les conserveries en fait sur les produits, les légumes et autres fruits. L'autre travail qui a été fait aussi au niveau de Redon Agglomération, c'est l'idée en fait de l'espace test aussi. C'est-à-dire que la mise en place en fait d'un espace test permet à des futurs producteurs, des futurs maraîchers, de se faire la main sur une année, et puis après de devenir des vrais bons maraîchers au niveau du territoire et ailleurs. Nous plus concrètement au niveau de la commune de Plessé, il y avait eu un gros travail de fait en fait sur l'équipe précédente pour apporter du bio à la cantine. Mais là où le bât blesse en fait, c'est que, comme le disait une personne tout à l'heure, où le bât blesse c'est que c'était du bio mais qui n'était pas fait en local. Donc on trouvait ça un peu déconnant en fait dans l'idée globale. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, nous l'idée en fait c'est de faire une régie alimentaire et une régie agricole. C'est-à-dire on part sur un état des lieux. Alors qui mange à PC, donc on part de l'EHPAD, on part du service à domicile comme on disait tout à l'heure. On parle des restos, on parle des cantines, et du coup en fait tout ce monde-là mange à Plessé. Donc comment on peut faire tous ensemble pour que ces services-là soient ravitaillés par des produits locaux et bio. Donc voilà, pour ce faire, on va travailler avec le GAP 44. Voilà, c'est le groupement des agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique qui va vraiment nous mettre un protocole en place pour aller jusqu'au bout en fait de ces démarches-là. Et puis on a aussi la chance en fait d'avoir beaucoup en fait de citoyens qui sont partie prenante dans ce deal-là. C'est-à-dire qu'on a mis en place en fait des comités au niveau de notre commune. Et du coup, voilà, sur mon comité agriculture alimentation, on est 40 à travailler. Donc voilà, ça nous permet en fait de faire plein de petits groupes de travail et chacun a son petit projet. Et du coup, voilà, ça met un peu tout le monde en fait dans la boucle. Et du coup, juste pour vous dire en fait qu'il y a aussi une autre équipe en fait qui travaille sur le plaisir à la cantine, chose intéressante à mettre en place aussi, je pense, au niveau des communes. Donc voilà, grosso modo, j'ai un peu brossé le portrait. J'ai fait ça assez rapidement, mais voilà quoi. Je suis pour ne pas couper les frontières. Parce qu'un producteur local, en fait, c'est pas forcément qu'un producteur de cette commune, quoi. Et que forcément qu'il faut avoir des échanges entre communes, entre territoires, entre agglomérations ou com-com, et puis retravailler quelque part pour ces échanges-là, en fait, sur des plateformes très locales pour avoir un ravitaillement le plus rapide et le plus précis possible. Voilà.
Merci Rémi de cette intervention.
Je vous quitte, hein. je passe sur une autre caméra.
Voilà, on apportera quelques renseignements sur le projet, sur le projet actuel de la restauration telle qu'elle fonctionne actuellement, même si voilà, il y a ce projet d'évoluer, puis sur le PAT peut-être de Redon et les projets. Je vais passer merci beaucoup, hein. Passer la parole à Vincent Duvic de Baignon, du coup.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Alors ma question s'adresse évidemment plus à Madame Duzet là, de Plouer, parce que nous sommes trois communes voisines, dans un rayon, on va dire, d'à peu près 10 km, qui avons à peu près le même projet, c'est-à-dire de passer tous les trois en régie. La question s'est donc posée à nous de dire, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de faire une cuisine mutualisée au profit des trois écoles? Alors, la question que je pose à la commune de Plouer, c'est, pour servir ces 500 et quelques repas, est-ce que l'infrastructure était déjà suffisante? Est-ce qu'il a fallu des travaux et des travaux importants? Voilà un petit peu pour savoir si, par rapport à nous, c'est quelque chose qui est reportable. Voilà.
Je ne sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend?
Oui.
Non, c'est bon là.
Oui,
c'est
bon. Je vous entends.
On avait une structure qui était déjà en place. On a fait quelques travaux, mais ça n'a pas été très important. Voilà, donc on avait déjà. Et puis on avait surtout déjà Gilles, notre cuisinier, très impliqué et qui a été moteur vraiment dans cette transition.
Est-ce que je pourrais donner l'exemple de Neuliac aussi sur l'histoire d'une cuisine partagée? Alors, on n'est pas sur l'échelle de 500 repas par jour, parce qu'on est plutôt sur une échelle de 140 repas jour. Et la cuisine de Neuliac, qui est effectivement bio-local, qui travaille beaucoup avec les producteurs locaux aussi, a choisi de travailler avec ses deux voisines, Kergrist et Saint-Aignan, et donc assure la préparation des 140 repas, dont la moitié quasiment est en distribution liaison chaude. Donc, la commune de Saint-Aignan a acheté une voiture adaptée pour pouvoir transporter le matériel. Je vous ai mis le lien vers la fiche projet pour avoir plus d'infos. Mais voilà, donc ils travaillent avec les deux communes voisines en liaison chaude. Donc, il y a toute une organisation. C'est le cuisinier qui prépare les 140 repas. Et donc, tous les repas sont livrés tous les jours à ces deux voisines. Donc, 30 et 40 repas respectivement dans chaque commune. Voilà, donc ils ont une sollicitation pour agrandir. Pour aller vers une quatrième école du côté de Pontivy, et pour l'instant ils ont refusé ils peuvent pas trop y aller parce que ça augmenterait d'une centaine de repas, et donc du coup ça expose un petit peu leur capacité de préparation à un tel repas, et ça ferait concurrence, je crois, à une cuisine centrale qu'il y a sur Pontivy par ailleurs. Donc voilà, mais il n'empêche que cette cuisine partagée fonctionne très très bien à l'échelle de ces trois communes. avec un cuisinier très engagé aussi. Je vous parlais de l'engagement du cuisinier, des élus, etc., avec une équipe très, très fonctionnelle.
Est-ce que Plouin, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Vous voyez que vous indiquiez…
Oui, le fait que… Là, l'arrivée de la commune de la Vicomté nous a amené simplement à faire l'acquisition d'un caisson. Parce que du coup, il y a cet enjeu aussi, c'est d'apporter des repas qui restent de qualité, à bonne température au sein des communes que l'on livre. Donc, dans la prestation que l'on rend à nos communes voisines, voilà, il y a cette exigence aussi d'avoir la bonne température à l'arrivée au sein de cette école-là. Ça a été l'outil qu'on avait déjà en place nous permettait, disons, d'absorber ces repas supplémentaires avec simplement l'acquisition d'un caisson, donc c'était de l'ordre de 3 000 euros. Aujourd'hui, on arrive à peu près au maximum de notre potentiel de production en repas. Et voilà, on n'a pas eu d'investissement majeur à réaliser. Mais je voulais rebondir aussi par rapport à ce que disait Emmanuel sur peut-être aussi les différenciations entre territoires. Sans doute que la réalité, notamment sur les produits maraîchers, n'est sans doute pas la même si on se trouve dans la région de Roscoff ou dans un secteur comme le nôtre. On a une agriculture donc, qui est quand même dominée par la production laitière, un petit peu de production de cochons. Mais on est un secteur où, malheureusement, à part le chou sur le secteur de Saint-Malo, mais on a peut-être un manque dans cette diversité de production maraîchère qui fait que effectivement, on va être très dépendant et très, très soumis à des fluctuations dans la production. On a eu le cas là, en tout début d'année où la production de courgettes était relativement faible. Eh bien, ça demande ensuite au cuisinier de repenser ses menus en conséquence et donc de se reporter vers des fournisseurs qui peut-être ne seront pas bio, et ce qui fait que le taux de bio dans la restauration peut être très variable en fonction de ses saisons, en fonction de la capacité au maraîcher de produire des volumes suffisants. Et bien évidemment, il y a ce souci où les producteurs bio sont en recherche aussi des filières les plus rémunératrices. Et à ce titre-là, vont se tourner de manière privilégiée soit vers les marchés, soit vers des restaurateurs. Et la resto collective ou scolaire est des fois un peu une variable d'ajustement pour eux. Et donc, il y a aussi ce frein-là, c'est qu'on peut être à l'instant T à 50-60% de bio, et puis l'année d'après, on va redescendre à 35-40% parce qu'il y a cette réalité-là qui s'impose. Donc c'est aussi tout ce sujet qui est à évoquer. Donc, nous, on espère et on essaie de pouvoir faciliter l'implantation d'un maraîcher directement sur la commune, mais ça nécessite aussi un travail avec la SAFER, à mettre en place une stratégie d'identification aussi du foncier non utilisé ou peut-être mal utilisé. Mais voilà, au-delà de la restauration, si on veut atteindre certaines exigences sur la qualité des produits ou sur le label bio, ça nécessite d'ouvrir une stratégie plus vaste que la question de simplement restauration, outils et personnel. C'est un peu plus vaste, sans doute.
Oui, c'est clair, on voit bien, c'est aussi un peu la démarche de Plessé, de Redanglomération, enfin voilà, d'intégrer vraiment globalement la restauration scolaire au sein d'une production relocalisée et affectée notamment à l'approvisionnement de ces cantines pour arriver à avoir un approvisionnement régulier. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects-là, ce qui peut-être par rapport à votre posture? Je sais que de nombreuses communes se posent la question de nouvelles équipes, se posent des questions quant à un passage éventuellement en régie. Ça peut être aussi une des questions. Alors, on a Philippe Le Dresen, je crois, qui veut intervenir. Alors, allez-y.
Oui, bonjour, Philippe Le Dresen pour la mairie de Lanvalet. C'est-à-dire qu'on a l'intention, là, avec la nouvelle équipe, de créer carrément ce qu'évoquait le collègue de Plouer, qui est voisin. Je te salue à l'occasion. C'est-à-dire qu'on a des terrains municipaux, là, qu'on a récupérés, qui étaient actuellement en location avec un agriculteur. Et là-dessus, on a l'intention de monter une, alors justement, c'est là la délicatesse, soit une régie ou une VSP par rapport à ces hectares-là qui sont actuellement. Donc, la qualité de la terre fait qu'on pourrait prétendre à du bio d'ici 18 mois. Et donc, la question qui se pose, c'est de créer justement pour avoir une restauration qui serait issue de cette production vraiment locale, c'est-à-dire qui desserverait non seulement la production de l'école, des écoles maternelles et élémentaires, mais également l'EHPAD. Donc, c'est un défi qu'on essaye de mettre en place sur la commune là, depuis le début du mandat. Et c'est vrai que voilà, on est en train de se creuser la question. Là, on a vraiment mis dans la boucle, évidemment, comme sur les conseils que j'ai bien enregistrés tout à l'heure, les cuisiniers de l'EHPAD et de la cantine de municipale. Et derrière ça, c'est vrai que c'est un défi qu'on se lance, mais je vois que bon, il y a pas mal d'adresses, pas mal de choses à voir. Et voilà, donc ça serait tout à créer, c'est-à-dire que les terres, elles deviennent municipales, ça l'était, mais ça y est, on a lâché le bail avec l'agriculteur. Et donc, on a tout à créer, en fin de compte, pour vraiment avoir la production la plus proche, qui serait distante au maximum de 2 km. Là, c'est pour ça que je vais me rapprocher un petit peu de ce que j'ai pu entendre ce matin pour voir comment ils ont procédé depuis la production sous serre ou pas, la gestion des stocks également. C'est-à-dire que j'avais posé une question sur, et on se l'est posé nous aussi, sur l'été, comment ça se passe sur le fait que la production est très massive l'été, et comment on fait justement, je pense à la première commune, là, comment ils font pour gérer justement le surplus de l'été, est-ce qu'ils le revendent sur les marchés? C'était une question qu'on se posait parce qu'on a pas mal d'associations ici sur le Pays d'Inan qui fonctionnent avec une insertion de personnes en difficulté, et on voulait travailler main dans la main avec eux pour éviter les surplus qui seraient évidemment très forts durant la saison estivale. Voilà, donc c'est toute une recherche qu'on a en place là, et on a vraiment la volonté de réussir d'ici la fin du mandat à faire une production très très locale. Voilà. Merci.
Merci pour ce témoignage. Alors, je regarde dans le chat si on a peut-être d'autres petites questions. Je pensais que ça pouvait être aussi intéressant, peut-être Laetitia, que tu expliques la situation de Saint-Aubin-du-Cormier, puis l'évolution peut-être vers justement les questions que vous posez sur le passage en régie, un passage en régie très rapide. Là, ça peut être intéressant.
Oui, d'accord. Alors, du coup, nous sommes en place à la nouvelle, au niveau de l'équipe, ça fait notre deuxième mandat, donc depuis 2014. Donc, Saint-Aubin-du-Cormier, nous arrivons à près de 4 000 habitants. Nous servons, du coup, sur l'école, nous avons une école publique, donc nous sommes à 31 000 repas par an, donc à peu près 230 repas par jour en deux services. Actuellement, donc, nous sommes en DSP via une société qui est Convivio. Depuis plusieurs années maintenant, on a une insatisfaction claire par rapport à la qualité des repas. Depuis 3 ans maintenant, moi et ma collègue à l'enfance jeunesse, donc, nous avons travaillé à mettre en place un groupe de travail cantine pour voir effectivement à introduire du bio, du local dans les repas. Donc, on a créé un groupe avec la directrice de l'école publique, des enseignants, des représentants de parents d'élèves. Nous sommes appuyés aussi sur Initiative Bio-Bretagne, sur Brudet aussi. Michael Laurent était présent également lors des échanges. Et donc, nous sommes arrivés en fait à l'élaboration d'un cahier des charges qui était, on va dire, un petit peu plus exigeant en fait que la loi Egalim. Donc, 50% de produits durables, dont 20% de bio minimum, mais aussi donc le repas végétal, enfin les protéines végétales, soit un repas végétarien par semaine, et puis également l'utilisation de légumineuses complètes, semi-complètes, les œufs en zéro ou en un, enfin en bio ou en plein air. Au niveau des viandes également, nous avions une exigence. Enfin voilà, on est parti sur un certain nombre de critères, on va dire, et l'exclusion du coup de produits transformés ou ultra transformés, donc de gamme 4 et 5. Depuis donc ce nouveau cahier des charges a été signé donc par Convivio. Nous sommes repartis sur un marché donc en 2000 pour la rentrée 2019, donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Et puis finalement on se rend compte que c'est très difficile c'est très difficile d'avoir le respect de ce cahier des charges en fait par le prestataire, et qu'on n'arrive pas, qu'on met beaucoup d'énergie effectivement à essayer d'accompagner notre prestataire vers le changement et que finalement c'est assez décevant de voir que plus ça va et moins ça va. En gros, je suis assez. y a eu un changement. Ça fait 3 fois qu'ils changent de cuisinier là en quelques mois, donc ça tourne avec des cuisiniers qui sont complètement dépassés, le personnel qui suit pas parce que ils ont pas assez de personnel. Enfin voilà. Donc on est arrivé à un point où là on se dit que il faut absolument qu'on puisse récupérer la maîtrise de la préparation des repas. Donc on réfléchit en fait à ce projet-là. Nous avons donc les repas en fait sont préparés à 700 mètres de l'école publique, c'est-à-dire dans les locaux de l'école privée qui elle a une cuisine adaptée pour une cuisine centrale. Et c'est elle qui loue en fait le bâtiment, la cuisine centrale à Convivio. L'école privée, enfin l'association des parents de l'école privée, l'OGEC, est sur le même constat aujourd'hui. Donc jusqu'à présent, ils avaient un prix qui était, on va dire, imbattable, donc ils se posaient pas trop la question. Mais là, la société a augmenté les prix. Donc la conclusion, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble vers un projet commun. Donc on est au démarrage des études à la fois de la cuisine. Donc on a fait venir le laboratoire Labo CA pour un diagnostic de la cuisine centrale, mais aussi de notre cuisine satellite, donc qui reçoit les repas en liaison chaude, et puis d'une troisième cuisine qui est la cuisine de la salle des fêtes. Et donc là, nous arrivons aux conclusions avec le laboratoire Labo CA que effectivement la cuisine de la salle des fêtes n'est pas forcément adaptée à un nombre de repas. Et puis, ça demanderait des travaux trop importants. Notre cuisine satellite est très bien en cuisine satellite et donc à la piste de récupérer la cuisine centrale actuellement utilisée et louée par Convivio semble la plus pertinente. Donc, il faut qu'on réfléchisse maintenant à une organisation qui prend en charge quoi, notamment au niveau du personnel. Et comment on va recruter. Donc la question du cuisinier évidemment se pose. Aujourd'hui, si demain effectivement le contrat avec Convivio s'arrêtait pour septembre 2021, ça veut dire qu'on récupère aussi une partie du personnel. Enfin, l'OGEC en tous les cas doit récupérer une partie du personnel. Mais je dirais quelque part heureusement pour nous, ça ne concerne pas le cuisinier ni le second. Puisqu'ils ne répondent pas à nos attentes en fait, et donc voilà. Par contre, ça concerne le personnel de service. Donc on est là au début de cette réflexion. Moi, j'ai engagé des rencontres avec effectivement AgroBio 35 pour voir si à court terme finalement, enfin en l'espace de quelques mois, c'est possible d'imaginer un approvisionnement du coup pour ces repas, parce qu'on serait nous à 230 repas à jour, mais il y a également l'école privée et puis le lycée du coup qui le fournissent également. Donc on est à peu près à 750 repas à jour. Visiblement, c'est possible. Maintenant, il va falloir qu'on voit comment on s'organise, qui recrute le cuisinier, qui recrute le second. Est-ce que ça peut se faire dans un temps aussi court? Mais l'exemple, du coup, qui nous a été donné par Roland tout à l'heure, me rassure peut-être un petit peu. En tous les cas, me rebooste pour me dire que c'est possible, puisque ça fait quand même 3 ans maintenant que la démarche est engagée, que la volonté politique est en tous les cas, est là. Peut-être sur le coût des repas, donc nous sommes aujourd'hui, alors avec un prestataire extérieur, à un coût de repas pratiquement à 6,45 € tout compris. Donc quand je vois vos coûts de repas, je me dis que finalement on peut faire mieux pour moins cher. Donc il faudrait qu'on y aille. Donc avec des tarifs familles qui varient entre 1,21 € et 4,36 €. Voilà, en fonction du coefficient familial. Le reste à charge de la collectivité, quand même, quand on est passé à ce nouveau cahier des charges, le prestataire nous a fait une augmentation de 30% du coût du repas, quand même. Donc, nous sommes passés de, un coût du repas qui était facturé à 2,50 € à 3 € TTC. Donc ça a été important pour nous. On a choisi de prendre en charge la moitié de cette hausse parce qu'on avait cette volonté vraiment d'améliorer la qualité des repas. Et puis on a imputé la moitié de la hausse, donc 70 000 € aussi aux familles. Donc on a eu 35 000 de plus là de charges pour la commune en 2019-2020 et là 2020-2021. Mais pour finalement un résultat qui ne nous satisfait pas et un respect du cahier des charges qui est très très variable. Donc voilà toute la difficulté effectivement de travailler avec des prestataires quand ils ne sont pas convaincus ou avec un cuisinier, enfin en tous les cas, avec un prestataire qui ne donne pas les moyens à son cuisinier de pouvoir intégrer plus de bio, de local et de vraiment travailler des produits frais. Leur difficulté, c'est on a encore beaucoup de produits de 4e et 5e gamme et c'est de l'assemblage en fait, pour beaucoup.
Merci de ton témoignage, Laetitia. Je ne sais pas s'il y en a des questions. Alors, je ne sais pas si vous regardez le chat, il y a eu quelques réponses apportées aux questions qui étaient posées, notamment sur la livraison au niveau de Plouer, par exemple. Aussi, des précisions apportées quant à quoi faire de la surproduction estivale et notamment voilà, le projet de mise en place d'une conserverie qui a été évoqué par Rémi Bellet tout à l'heure de Plessé. Mais aussi, je pense, voilà, Plouguerneau qui étudie la possibilité d'une unité de surgélation, peut-être aussi pour pouvoir préparer ou gérer ce surplus. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des demandes d'intervention quant à vos projets respectifs, peut-être ? S'il n'y en a pas, étant donné qu'on arrive un peu au terme de nos deux heures de rencontre, écoutez, je vais redonner la main éventuellement à Laetitia pour conclure sur ces échanges-là.
Oui, merci beaucoup, du coup, Maïwenn et Mima, pour l'animation de ce temps qui a été très, très riche, effectivement, et je crois motivant pour lancer des nouveaux projets, alors à court terme, à moyen terme ou à plus long terme. En tous les cas, on voit que des solutions existent, qu'il y a plein de solutions en fonction effectivement des territoires. En tous les cas, je pense qu'il ne faut pas hésiter à expérimenter sur les territoires, sur cette thématique qui est, je le disais en introduction, qui est extrêmement essentielle. Notamment, je fais beaucoup le lien santé-alimentation. Merci pour tous vos retours à chacun. Et je crois que c'est ça la force du réseau de Brued'aide, c'est de pouvoir effectivement identifier à la fois les facteurs de réussite, mais aussi les freins qu'on peut rencontrer, et puis de trouver des solutions ensemble. Donc, ces échanges-là permettent effectivement d'avancer à la fois dans sa réflexion, mais aussi, et c'est là l'objectif, dans son action au quotidien, dans nos collègues. Et à tous les participants, parce que ça participe effectivement à ce retour d'expérience qui est riche et qui fait Brued'aide.
Merci Laetitia. J'avais deux petites choses à rajouter. Je vais vous faire suivre un lien pour l'évaluation de cette rencontre. On vous invite à remplir. Ça nous aide toujours à améliorer le format, le contenu de nos rencontres. Peut-être évoquer, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, le fait qu'une rencontre s'organise entre Plouer et Baignon Campénéac, il me semble, la semaine prochaine. Et peut-être avoir, comme ça a été évoqué à la fois avec Plouer, mais aussi éventuellement avec Baignon, la possibilité de peut-être d'ouvrir la visite à quelques élus qui seraient disponibles sur ce créneau, étant donné que voilà, vous êtes mobilisés sur Plouer, peut-être pour accueillir quelques autres élus qui pourraient être disponibles. Il me semble que le créneau, c'est le mercredi 9, donc la semaine prochaine, le matin, à 10h30.
Tout à fait. Alors, on s'interrogeait justement sur le fait que si d'autres communes viennent se greffer à cette visite, éventuellement, peut-être de l'avancer à 10 heures, éventuellement, pour s'autoriser 2 heures. On pourrait avoir un premier point en mairie, on retrace un petit peu certaines données, certains chiffrages, un petit peu le cheminement. Et puis ensuite, une visite de la cantine avec Gilles, le cuistot. Voilà, on se disait peut-être s'accorder 2 heures, ce serait peut-être plus rassurant ou préférable, peut-être de démarrer à 10 heures si c'est jouable, surtout si des communes souhaitent rentrer dans la boucle. C'est vrai que si on peut maximiser la visite et éviter peut-être de reproduire et dupliquer les visites, parce qu'on est tous un petit peu là sur beaucoup de sujets à la fois, donc voilà, si on peut essayer de gagner un petit peu en efficacité sur ce point-là, ce serait pas mal.
Voilà. Je vous propose pour que les personnes qui sont intéressées peut-être se manifestent à nous pour qu'on puisse aussi établir une jauge, hein, pour pas que vous soyez débordés de 20 personnes qui débarquent non plus. Donc, hormis ceux qui ont convenu déjà directement avec vous, donc de Baignon et Campénéac et peut-être au Gand, je propose aux autres de se rapprocher de nous d'abord pour qu'on puisse regrouper les personnes qui seraient intéressées et puis voir après avec vous à Plouer la jauge que vous vous donnez, quoi, pour pour pas être débordé. Et puis voilà, c'est une proposition qui est faite aux participants qui sont là tout de suite maintenant et qui ont participé aux échanges. On n'élargira pas plus hein, vu les timings. Voilà, donc je vous ai mis le lien de l'évaluation dans le chat qui vous sera renvoyé par mail. Je vous invite à le remplir. Voilà, suite à cette rencontre, sera fait un compte-rendu dans lequel il y aura à minima les présentations des témoignages qui ont été faits, un rappel des liens vers les retours d'expérience qui ont été présentés. Et puis voilà. Maïwenn, si tu veux ajouter quelque chose.
Oui, je voulais juste rajouter un petit mot de conclusion aussi, parce que l'on voit dans le chat qu'il y a pas mal de communes qui se posent des questions, qui hésitent et qui souhaitent peut-être changer. On vient de voir Laetitia qui a pas mal de questions et qui mériterait peut-être de se poser, de voir quelles seraient peut-être les solutions envisagées. Il y a d'autres communes qui se posent des questions. N'hésitez pas à vous tourner vers vos référents Brudette qui peuvent vous accompagner aussi sur cette démarche. On n'est pas les seuls, mais on peut aussi vous aider, notamment en s'appuyant sur des retours d'expérience. Là, on a fait le tour un peu global. On vous a montré deux exemples, mais il y en a bien d'autres. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit par des questions très précises, je vois qu'il y a des questions sur les coûts, sur des choses comme ça. On a des éléments des fois un peu plus précis que ce qu'on a pu vous présenter là, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était tout. On a beaucoup d'éléments sur cette question des cantines, comme beaucoup d'autres partenaires d'ailleurs aussi, il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux, qui accompagnent plus spécifiquement d'ailleurs les communes sur des projets de cantine bio locale. Voilà, c'était mon mot de conclusion, on va dire.
Et merci à tous pour vos contributions à cet échange. Au plaisir d'une prochaine rencontre.
Merci beaucoup et à bientôt alors.